BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est bientôt 18h, bienvenue si vous nous rejoignez comme tous les soirs dans Good Evening, jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. Alors c'est le jour de serpent de mer qui refait surface dès qu'on cherche de l'argent. Faut-il supprimer un deuxième jour férié en France au lieu du... En plus du lundi de Pentecôte, il y a une vingtaine d'années, plusieurs ministres en ont reparlé ces dernières heures. Alors on va en reparler, nous, dans un instant, bien sûr, avec Thomas Asportas. Et Emmanuel Macron, qui est toujours au Maroc, où de nouveaux contrats ont été annoncés. On va vous raconter ça, bien sûr, dans le journal, dans un instant. Et puis on parlera de tout ça avec nos experts, qui arrivent dès 18h15 cette semaine. Avec eux, on parlera aussi du traumatisme que vit Volkswagen. Avec quand même ces questions, faut-il s'inquiéter désormais aussi pour les usines automobiles françaises? La question est de moins en moins tabou. Et puis la question américaine, bien sûr, la campagne américaine. Donald Trump très en forme il y a quelques instants du côté de la Floride. On va vous faire écouter tout ça. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, c'est l'un de ces sujets qui réapparaît par temps de disette budgétaire, comme on dit. Faut-il supprimer un deuxième jour férié en France? Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Oui, parce que après Antoine Armand dimanche, c'est Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, qui en a reparlé ce matin finalement.
Absolument. Il considère, je cite, que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer à l'effort de redressement va dans le bon sens. Alors le ministre n'en a pas dit plus, il n'a pas désigné un jour précis du calendrier et explique, je cite, qu'il faut laisser de la souplesse pour que ça marche. Et avant-hier, effectivement, c'est Antoine Armand qui avait ouvert la boîte de Pandore en déclarant que c'est une proposition très intéressante, qu'on instruit et qu'il faut regarder de près. Une idée jugée intéressante par le gouvernement, mais qui fait aussi, bien sûr, beaucoup de bruit. Et Bercy prend donc aussi le soin de rappeler que ce n'est pas leur idée, mais celle de plusieurs sénateurs pour financer les EHPAD et le grand âge, et que ce sera donc un débat qui se tiendra au Parlement. En tout cas, c'est une mesure que le gouvernement accueille favorablement parce que c'est une mesure d'économie qui, elle, au moins, a ses chances de passer. Elle passerait au Sénat, à majorité de droite et du centre, et elle a ses chances à l'Assemblée, puisque de nombreux élus de la droite et de la Macronie y sont favorables, et le patronat aussi, plutôt que de geler les pensions de retraite pendant 6 mois ou d'augmenter les charges autour du SMIC, deux mesures auxquelles ils sont farouchement opposés. Supprimer un deuxième jour férié leur irait beaucoup mieux et rapporterait entre 2 et 3 milliards d'euros. La mesure a clairement ses chances.
Bon, il n'a pas parlé du jour en particulier qui pourrait supprimer. Voilà, ça reste un peu le sujet sensible. Allons-y petit à petit finalement. Merci beaucoup Thomas Asportas. On parle de tout ça bien sûr avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Pendant ce temps, Emmanuel Macron lui poursuit sa visite d'État au Maroc avec des contrats et des accords d'investissement dont le montant global pourrait atteindre jusqu'à 10 milliards d'euros. Bonsoir Léa Rogeau. De quel contrat parle-t-on exactement, Léa?
Dans les énergies renouvelables, dans l'eau, le secteur portuaire et les transports. Au total, une quarantaine de contrats ont été signés. Veolia va développer un projet de dessalement d'eau de mer présenté par le groupe comme le plus grand d'Afrique et le deuxième plus grand au monde. Objectif, répondre aux besoins en eau de près de 9,3 millions d'habitants. Dans les transports, Alstom et Aegis, les deux groupes français, participeront à la réalisation du deuxième tronçon de la ligne de train à grande vitesse Tanger-Marrakech. Alstom va fournir 12 à 18 rames du futur TGV au Maroc. Et puis, pour le développement des énergies vertes, Total Energy a lui signé un des plus gros accords pour le développement de la filière d'hydrogène vert au Maroc. EDF a signé un protocole d'accord portant sur l'extension d'un parc éolien. Et puis, chez Engie, un accord de partenariat dans la transition énergétique a été signé pour développer des solutions de production d'électricité issues de sources renouvelables. Et puis un autre sujet qui a été évoqué, c'est celui de l'accès à Internet. Thales et l'italien Leonardo ont signé un protocole d'accord avec l'opérateur marocain Panafsat pour fournir une connexion Internet haut débit par satellite à 26 pays africains. Et puis pour finir, dans le secteur portuaire maintenant, le transporteur maritime CMA-CGM, propriétaire de BFM Business, va s'associer à Marsa Maroc pour équiper et exploiter la moitié d'un terminal à conteneurs dans le nord du Maroc. Safran, l'équipementier aéronautique, va lui mettre en place un site de maintenance et de réparation qui devrait être opérationnel d'ici 2026.
Voilà pour les principaux contrats effectivement annoncés à l'occasion de cette visite d'État au Maroc. Merci beaucoup Léa. Léa Rogeau avec nous sur BFM Business. L'Europe, elle, pendant ce temps, c'est officiel, a adopté, ça y est, officiellement, le projet qui va lui permettre d'imposer des surtaxes allant jusqu'à 35% sur les voitures électriques en provenance de Chine. La mesure entrera en vigueur après-demain, jeudi, malgré l'hostilité de certains pays, on le sait, comme l'Allemagne. Notamment, l'actualité des entreprises à présent avec des choses qui se précisent chez Vivendi. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Guillaume.
On savait que Vivendi avait l'intention de se scinder en plusieurs entités. Ce projet a été validé par le conseil de surveillance et on apprend qu'il valorise la seule entité Canal+ à presque 7 milliards d'euros, c'est ça Mathieu ?
Oui, exactement. C'est le véritable enjeu de cette scission, de ce découpage, de cette vente à la découpe de Vivendi qui sera effectivement maintenant éclatée en 4 sociétés en réalité, toutes cotées en bourse. Alors Canal+, quand même, il faut le dire, sera coté à la bourse de Londres et non pas de Paris. Ça fait un petit peu jaser quand même dans les milieux financiers. Effectivement, on attendait de savoir combien vaudra Canal+, en tout cas combien espère Vivendi que Canal+ vale. Et on est effectivement proche des 7 milliards d'euros, ce qui est quand même une valorisation assez importante. Ouais. Vivendi essaye de refaire, on va dire, une opération financière assez belle, comme il l'avait fait il y a 3 ans avec Universal Music, même si Universal était valorisé bien plus que cela. Et il y a aussi le retour en bourse d'Havas, groupe de publicité dirigé d'ailleurs par le fils de Vincent Bolloré, Yannick Bolloré, qui lui aussi avait été coté en bourse à Paris à l'époque. Havas valait 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, il n'est valorisé plus que 3 milliards et demi d'euros. Havas a quand même peu grandi depuis ces années sous l'ère Vivendi et Vincent Bolloré. Et puis Havas sera quand même coté à la bourse d'Amsterdam, ce qu'on savait déjà, et toujours pas à la bourse de Paris. C'est un signal pas très positif. Et puis il restera une myriade de sociétés dans lesquelles le groupe Vivendi et Vincent Bolloré ont investi ces dernières années qui seront chez Vivendi. On ne sait pas encore ce que Vincent Bolloré en fera, notamment au capital de Telecom Italia, de Mediaset, de Prisa. Bref, encore quelques opérations financières qu'il pourra opérer dans les futures années.
Bon, ça a été validé chez Vivendi. Les actionnaires doivent trancher le 9 décembre prochain.
Exactement.
Ça sera la prochaine étape. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci,
Mathieu Pechberti. Dans l'actualité des entreprises, toujours, décision de justice est tombée aujourd'hui. Dalloyo, le traiteur de luxe qui était en redressement judiciaire, va finalement être repris par Potel et Chabot, filiale du groupe Accor. C'est Potel et Chabot qui l'emporte face à Elior, qui était le principal concurrent dans ce dossier. Et puis, on voulait revenir sur ce petit séisme dans la presse américaine. Vous savez que pour la première fois depuis 40 ans, le Washington Post a décidé de ne soutenir officiellement aucun candidat à la présidentielle. Eh bien, les conséquences de ce non-choix ont été immédiates sur le plan éditorial, mais aussi commercial. Timothée Marouzet.
L'éditorial de soutien à Kamala Harris était prêt depuis plusieurs semaines, mais il ne sera jamais publié. Une décision simplement prise en interne, affirme Bezos, qui dément toute influence ou intérêt personnel à l'origine de l'absence de soutien de candidats. Dans la foulée, une dizaine d'éditorialistes du quotidien ont publié une lettre ouverte dénonçant une terrible erreur et un choix jugé lâche, abominable et honteux. Résultat, côté abonné, c'est l'hémorragie. Selon la radio publique américaine, plus de 200 000 lecteurs ont résilié leur abonnement en 72 heures. Cela représente 8% des abonnés en ligne, une perte potentielle de dizaines de millions de dollars annuels. Jeff Bezos cherche-t-il à se réconcilier avec Donald Trump ? En 2019, l'ancien président avait préféré Microsoft à Amazon pour moderniser le Pentagone, un contrat à 10 milliards de dollars perdu pour Bezos. Les dirigeants de Blue Origin, l'entreprise aérospatiale de Bezos, ont en tout cas rencontré Trump après un meeting cette semaine. De quoi alimenter les soupçons alors que Blue Origin est candidat à de gros marchés publics.
Voilà, 200 000 lecteurs qui ont résilié leur abonnement en ligne en l'espace de 72 heures. Voilà pour la déroute sur le plan commercial pour le Washington Post. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Aude Kersulec. On a terminé en baisse ce soir à la Bourse de Paris.
Oui, un recul de 0,6%, 7511 points. Ça s'était pourtant bien passé au début de la journée, mais emporté par la baisse à Wall Street. On a finalement terminé dans le rouge, un recul des valeurs industrielles assez marqué, notamment chez Stellantis ou encore les électriciennes Schneider ou Legrand. Ça montait en revanche pour la tech, téléperformance Dassault Systèmes, ST Microelectronics. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qui pèse sur les indices en ce moment. C'est la montée du taux 10 ans américain, une tension sur les taux obligataires, 4,30% franchi aujourd'hui. On a même été encore plus haut pendant la séance tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a des résultats qui sont très mal arbitrés du côté de Wall Street. On peut citer Ford avec le PDG qui voit une guerre des prix et Ford qui en serait plutôt perdant parce qu'ils sont obligés de faire des gestes commerciaux. Ça réduit leur marge. Ils ont des surstocks en plus en ce moment. On perd donc 8% en ce moment à Wall Street sur ce titre spécifiquement Ford, alors que les indices américains sont en ordre dispersé.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, avec nous sur BFM Business, 18h09, la campagne américaine, tout de suite.
USA 2024, la présidentielle.
On est à une semaine du vote des Américains. Bonsoir, Benaoud Abdedaïm.
Bonsoir.
Une fois encore, on a entendu Trump accuser Taïwan, je cite, de voler l'industrie américaine des semi-conducteurs. Vers quoi cela peut-il nous mener, Benaouda ?
Vers des droits de douane, que compte imposer le candidat républicain aux puces électroniques en provenance de Taïwan. Il ne précise pas à quelle hauteur, il ne précise pas comment. Selon lui, ces industriels taïwanais volent, je cite, leurs homologues américains. Donald Trump parle dans un entretien de leur activité. S'agit-il de propriété intellectuelle, de segments de production, de marchés internationaux ? Ni lui, ni sa campagne ne fournissent de précisions. Les analystes se perdent donc en conjectures. Quant aux modalités, ceux de la banque américaine Citi préviennent que l'instauration de ces surtaxes douanières nécessitera des audits complexes sur des milliers d'appareils. Quoi qu'il en soit, l'ex-président établit aussitôt un lien avec la protection qu'accordent les États-Unis à Taipei. Dans son raisonnement, Washington n'acceptera plus cette ingratitude. Donc, le numéro 1 taïwanais et mondial TSMC devra abandonner de la production la plus en pointe à des entreprises américaines sur le sol américain. Donald Trump refuse que les Taïwanais, bénéficiant de fonds publics d'une législation américaine en vigueur depuis 2022, procèdent à cette implantation. Le ministère américain du commerce octroie à TSMC un financement de 7 milliards de dollars pour la construction d'une troisième usine en Arizona. Mais d'après la campagne républicaine, quel que soit le coup de pouce du contribuable américain, les sociétés étrangères, donc taïwanaises, ne consentiront jamais à transférer leur meilleur savoir-faire. Tout à l'heure, le Premier ministre taïwanais a surtout exprimé son désaccord avec cette accusation de vol. Taïwan a développé son industrie des semi-conducteurs par ses propres moyens.
Et comment l'actuel gouvernement américain se positionne-t-il, du coup, en attendant ?
Alors, l'administration Biden, vaille que vaille, tente de rassurer Taipei. Un diplomate américain de haut rang vient d'arriver aujourd'hui. Il est question de poursuivre la collaboration dans les dossiers d'intérêt mutuel, sécurité régionale, échanges commerciaux et investissements mutuellement bénéfiques, comprendre ceux où les deux parties y gagnent. Le chef du gouvernement taïwanais a quand même jugé utile aujourd'hui de faire part de sa conviction que les États-Unis restent une démocratie mature et que les relations se poursuivraient sur les bases existantes. Il y a 3 mois déjà, Donald Trump avait formulé une accusation identique contre l'industrie taïwanaise des puces et le ministre taïwanais de l'économie disait penser qu'il avait été induit en erreur. La thèse que tente actuellement Taipei, c'est que les entreprises technologiques taïwanaises ont insuffisamment investi dans le lobbying politique à Washington. Une demi-douzaine de consultants embauchés à cet effet, là où le sud-coréen Samsung Electronics à lui seul, en a recruté 300. Quoi qu'il en soit, l'ex-président ne dévie pas de son idée que Taïwan va devoir payer pour être protégé face à la Chine. Aucun achat d'armement américain ne le convainc que c'est le cas. Le gouvernement Biden vient d'approuver la livraison d'un immense système avancé de défense antimissile d'une valeur de 2 milliards de dollars. Un conseiller à la sécurité nationale sous la présidence Trump, acquis à la cause de Taipei, soutient lui que si son ancien patron est élu, de toute manière, Taïwan est potentiellement grillé.
Et voilà, Taïwan dans le viseur de Donald Trump à une semaine du vote des Américains. Merci beaucoup, Benaouda. À demain.
USA 2024, la présidentielle.
18h12, nos experts arrivent dans un instant. De quoi est-ce qu'on parle ? De ce serpent de mer qui rejaillit, le deuxième jour férié supprimé en France. On parle bien sûr du voyage d'Emmanuel Macron au Maroc. Et puis, zoom justement sur cette campagne américaine. Donald Trump littéralement déchaîné tout à l'heure une fois de plus face à Kamala Harris qui parle ce soir devant la Maison Blanche. Tout ça à une semaine du vote, bien sûr. Tout ça jusqu'à 19h déjà, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
Allez, 18h16, ils sont là, nos experts, comme tous les soirs, pour refaire l'actu en direct jusqu'à 19h, évidemment. Béatrice Mathieu est avec nous. Béatrice, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Rédactrice en chef à l'Express. Benjamin Gian est avec nous. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur et patron de Brain Trust, ancienne plume à Matignon, du temps de Manuel Valls et communicant, évidemment. Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Merci à tous les trois d'être avec nous dans l'actualité ce soir. Et allez, c'est reparti, quasiment tous les jours, on nous ressort un vieux serpent de mer pour essayer de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. Hier, c'était les arrêts maladie pour les fonctionnaires. On va en reparler d'ailleurs dans un instant. Aujourd'hui, c'était la suppression d'un deuxième jour férié, 20 ans après le lundi de Pentecôte. C'est Laurent Saint-Martin qui a remis ça sur le tapis ce matin. Écoutez.
Ça fait partie des débats qu'on aura au Parlement. Le gouvernement ne l'a pas proposé, mais je crois que certains parlementaires veulent le présenter.
En tant que ministre du Budget ?
Moi, je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer justement à l'effort de redressement va dans le bon sens.
Et vous en choisirez en particulier ? Faut laisser les entreprises choisir ?
Je crois qu'il faut souvent laisser de la souplesse pour que ça marche. À l'expérience, c'est quand même ça qui fonctionne.
Il paraît qu'il y a quelques années, quand le dossier était ressorti, tout le monde visait le jeudi de l'ascension parce qu'on se disait, on va faire coup double, on va sauver et le jeudi et le vendredi en termes de productivité. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Donc là, il n'est pas allé aussi loin, Laurent Saint-Martin. Mais quand on regarde les chiffres, le lundi de Pentecôte, ça rapporte entre 2 et 3 milliards d'euros tous les ans. Ça se regarde quand même, non ?
Je sais pas. 3,2 milliards l'année dernière. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui... c'est tellement lissé, c'est-à-dire qu'on se focalise sur ce lundi de Pentecôte, mais en réalité, il y a plein de c'est fériés encore, donc c'est non travaillé pour encore beaucoup de gens, parce que c'est soit lissé sur l'année, soit pris.
Soit les boîtes l'offre, voilà.
Une journée de RTT en moins, donc se dire est-ce qu'il faut que ce soit le jeudi de l'Ascension ou un autre jour, ça sera lissé pareil.
Mais ça rapporte quand même 2-3 milliards.
Ça rapporte 2-3 milliards, oui. Oui, l'estimation qui a été faite là sur un deuxième jour, c'est que ça rapportera un petit peu moins, 2,4 milliards a été faite.
Parce qu'il y a des astuces.
Voilà. Mais bon, on voit bien que tout est fait pour ramener
à partir du moment où vous ne rentrez pas dans les grandes réformes structurelles, vous êtes obligé de ramener. Comment ça, il y a des astuces ?
En fait, ça a été créé au début des années 2000. Et
le lundi de Pentecôte, oui, après la canicule. Oui.
En fait, il y avait la composante qu'on connaît aujourd'hui, c'est le 0,3% qui va financer la solidarité et l'autonomie. Donc les 2,3 milliards, qui est le même chiffre qu'en 2012. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, a disparu... la partie de 0,3% qui portait sur tous les revenus du capital. Il y avait un 0,3% là-dessus aussi. Et il y avait 0,1% sur la partie de la CSG non déductible. Comme il y a la CSG, ça rapporte 146 milliards. Même si on est sur la toute petite partie, ça rapportait beaucoup plus. Et donc, du coup, il y a une petite entourloupe au sens où la CNSA, l'autonomie, n'en bénéficie pas à peu près, elle a perdu les deux tiers, un tiers pardon, de ce qu'elle aurait dû avoir. Et puis après ça, l'autre entourloupe, c'est que il y a 150 jours non travaillés dans l'année.
Ouais. Bah
chacun rapporte.
C'est des week-ends. Hein,
en fait, 2 ou 3 milliards, c'est la taxe.
Oui. Hein,
d'accord. Mais le total rapporte à peu près 40 milliards, autour de 35 milliards de PIB en plus, c'est ce qui est vendu. Donc si on supprime tous les jours de repos pendant à peu près, j'ai pas fait le calcul, entre un an et demi, on paye toute la dette.
Ah c'est bien, oui.
On voit bien que c'est non linéaire, comme on dit en économie.
Devriez être ministre, vous,
Mais bon, et donc que tout ça n'est pas super miraculeux non plus, quoi. Hein. Donc on voit bien le rendement de la taxe pour financer le budget, le PLFSS, ça marche assez bien. Après, le problème, c'est que si on fait travailler plus les gens à salaire constant, à court terme, on va voir que ça a plutôt tendance à détruire de l'emploi. À long terme, ça n'en crée que si les prix baissent. Hein,
Benjamin, comment est-ce que vous regardez cette séquence ? Tous les jours, ça taxe et tous les jours, on déterre un vieux dossier qu'on n'a pas...
La France est un grand pays qui aime se poser des petites questions. Là, on est effectivement dans une énorme réforme structurelle. Hein. On part la question par le petit bout de la lorgnette. Mais moi, j'ai envie de complexifier la question, puisque on se pose cette question d'un jour de plus de vacances, retirer un jour de congé. Moi, je me demande quel est le message aussi que l'on envoie, parce que on va traiter tout le monde à la même enseigne. Je pense que ce serait plutôt astucieux de réfléchir justement sur ces jours travaillés. Comment évolue le travail aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui, je pense aux cadres, ceux qui télétravaillent, peut-être que ce jour de vacances, on peut peut-être leur retirer. Mais effectivement, quand on est un petit salarié, un petit ouvrier, et qu'on vient nous dire encore, pour payer, il faut vous retirer un jour de congé, je trouve que...
Là, on vous vend ça en termes, c'est pour financer les EHPAD. Hein.
Oui, mais je trouve que cette réforme telle qu'elle est annoncée, c'est encore une addition assez salée pour les petites gens. On leur dit, on va vous retirer un jour de congé. Qui est quand même pas rien dans une vie. On dit, bah voilà, pour payer, il faut qu'on me retire un jour de congé. Donc j'aurais aimé quelque chose de peut-être un peu plus articulé, où on se dit, bah ce jour de congé, on le retire à certains, peut-être ceux qui, justement, ont un rapport au travail qui évolue, ou qui font des longs week-ends, ou qui peuvent aller travailler ailleurs, et se dire que ce jour de vacances-là, peut-être, ce jour de congé, bah, voir comment vous le redonner à la solidarité nationale, et pour d'autres, peut-être les laisser.
Bien sûr, on commence à faire ça à la carte, etc. Non, mais je veux dire, que c'est une usine à gaz, ça me paraît quand même.
Puisqu'on rentre dans l'usine à gaz, allons-y.
Il y en a certains qui s'appelaient, écoutez le député les Républicains Charles de Courson qui était enthousiaste ce matin à ce sujet. Tiens,
cette journée qui a l'avantage, si vous voulez, de ne pas augmenter les taux de cotisation sur les salariés et les employeurs, voyez. Et donc c'est un effort. En fait, ça consiste à faire travailler 7 heures supplémentaires sur l'année.
Oui.
Alors je rappelle que à 35 heures en plein temps, c'est 1607 heures. Donc oui, on passerait de 1607 à 1614. C'est quand même un effort tout à fait raisonnable pour financer la branche dépendance.
Voilà, donc c'est pas le Perrault, dit en gros Charles de Courson, c'est ça qu'il nous dit.
Il dit c'est pas le Perrault, mais il dit un truc faux, c'est ça augmente le taux de prélèvement obligatoire.
Ça élève le taux de prélèvement obligatoire.
Oui, bien sûr, mécaniquement ça va l'élever. Puisque le 0,3% est mis a priori sur les entreprises, et puis après charge à elles de négocier un jour de travail en plus.
Oui,
c'est quand même comme ça que ça fonctionne.
Bon, on va attendre de voir plus clair, on va voir effectivement. Alors, le ministre dit que ça fait partie des débats qu'on aura au Parlement, donc on verra ce qui se passe. Il va se passer d'ici pas mal de choses. Comment vous avez observé le retour de cet autre serpent de mer, donc les arrêts maladie, gouvernement qui veut donc passer de 1 à 3 jours de carence dans la fonction publique comme dans le privé. Tiens, écoutez Sophie Binet, la patronne de la CGT, littéralement furax aussi ce matin, évidemment.
C'est mensonger. Les salariés du privé, nous battons pour gagner une neutralisation de ces jours de carence, et pour plus de 70% des salariés du privé, c'est le cas, puisque nous avons des accords d'entreprise ou de branche qui permettent de garantir le maintien de la rémunération dès le premier jour d'arrêt maladie. Et ensuite,
à travers des complémentaires, notamment.
Oui, tout à fait. Cette annonce, elle est vécue comme une insulte pour les plus de 5 millions de fonctionnaires qu'on fait encore une fois passer, et pour des privilégiés, et pour des gens qui choisiraient d'être en arrêt maladie.
Voilà, alors qu'on s'intéresse aux causes de l'absentéisme dans le public ou dans le privé, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a un vrai tabou sur l'absentéisme dans la fonction publique aujourd'hui, Bruno?
Peut-être. Alors, première remarque, moi, c'est on se refait, c'est comme le sujet précédent, le programme de l'ENA au début des années 2000. donc on passe toutes les pages. Il y a un problème d'absentéisme, parce que ça a évolué. Donc, il y a toujours eu un peu plus dans la fonction publique pour des raisons que je ne connais pas, que dans le secteur privé. Mais depuis le Covid, ça a beaucoup plus augmenté dans la fonction publique. Avant, l'écart était de 1 jour. Maintenant, il est de 3 jours en moyenne.
Mais c'est disparate, cette hausse, au sein de la fonction publique même. Je veux dire, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Il y a énormément de disparités. Ça me semble assez clair.
Ouais.
Après ça, moi, je pense que la solution pourrait être de plafonner dans les systèmes sociaux. On a plein d'avantages sociaux comme ça. Enfin, si c'est un avantage social, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais qui sont plafonnés. C'est-à-dire, on dit, voilà, vous avez la moyenne, c'est 9 jours, vous avez droit à 9 jours par an, en regardant les populations, parce qu'il y a des populations plus ou moins exposées, les femmes, les seniors, etc.
Et donc, on exclut tout ce qui est exclu ALD, tout ça, affection longue durée, on exclut évidemment.
Mais donc, si abus il y a, ces abus, ils sont facilement identifiables par profession, par type d'employeur, etc. Et donc, on peut les limiter de cette manière-là, sans prendre une mesure qui va pénaliser tout le monde. Puisque si on met 3 jours à tout le monde, quoi qu'il arrive, du coup, on pénalise tout le monde pour peut-être des gens qui ont abusé à la marge.
Non, mais là, il y a un sujet, parce que l'INSEE, entre 2019 et 2022, on a gagné, entre guillemets, 7 jours d'absentéisme dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction territoriale. Autant dans l'hôpital, on peut comprendre, autant dans la fonction publique territoriale, on a du mal à comprendre.
Les disparités, c'est vrai que l'écart, c'est creusé entre le privé et fonction publique. Au sein même de la fonction publique, il y a visiblement quand même un problème de fonction publique territoriale.
Oui.
L'argument assez basique de dire mais il faut aligner le public sur le privé, effectivement il ne tient pas, et en cela Sophie Binet a assez raison, puisque trois quarts des salariés du privé c'est compensé par, par le système de complémentaire, et que en
des
revanche
contrats de prévoyance,
des contrats de prévoyance oui. En revanche effectivement pour le fonctionnaire, quand c'est le premier jour, c'est le premier jour, oui. Ça tombe. Je pense que il faut intensifier considérablement les contrôles ce qui est fait pour lutter contre la fraude, et ce qui ramène peu en regard de ce qui pourrait être ramené compte tenu des dérives qu'on peut observer dans
les effectifs aussi publiques. Pour faire ces contrôles, pour renforcer ces contrôles,
oui, et d'ailleurs tout à fait.
Benjamin, comment est-ce que vous regardez ce sujet ? Aussi, serpent de mer, on est dans les serpents de mer.
Moi, je trouve que le problème est mal amené, parce qu'effectivement, la réalité des faits, on voit que les salariés du secteur privé sont, il y a un rapport de l'IGAS qui l'a montré, pour deux tiers d'entre eux sont protégés de ces trois, oui. jours, de ces trois jours de carence.
C'est vrai.
Donc j'ai l'impression qu'on pose mal le débat, et qu'en fait, encore une fois, dans notre pays, qui devrait être un pays du dialogue social, là, on se dit, la facilité, c'est pointer du doigt les fonctionnaires en disant, trois jours de carence pour eux, alors qu'en montrant l'exemple du privé, qui n'est pas un exemple réel. Donc, on voudrait avancer sur un vrai sujet, qui est l'absentéisme, effectivement, dans la fonction publique. Et on s'y prend tellement mal. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on va chercher un exemple qui, en un instant, s'effrite totalement. Et donc, au final, on ne va pas traiter le sujet. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas traiter le sujet. Parce qu'on ne prend pas le bon référentiel. Et c'est malheureux.
Et le sujet, c'est celui des conditions de travail dans la fonction publique. Mais le problème se pose de la même façon dans le secteur privé.
Mais dans laquelle fonction publique, c'est encore ça.
C'est voilà.
Très...
Et encore, je suis sûr qu'il y a des communes où il y a peu d'arrêts maladie, des communes où il y en a beaucoup.
Mais je veux dire, ça, les données, en fait, sur l'absentéisme commune par commune, elles sont tout à fait connues. Donc, s'il y avait un vrai travail en amont qu'est-ce qui se passe ici, comment ça s'explique, quel contrôle, quel agent, peut-être que dans certaines communes c'est très justifié parce que il y a un malaise au travail, parce que il y a
ça peut dépendre de tellement de choses, de tellement de paramètres. Oui, Benjamin. Mais...
Et puis encore une fois, il y a une question d'agenda politique. On choisit les sujets politiques auxquels on veut se coltiner. Là, il y a ce choix. Effectivement, de se dire, la priorité de la priorité, c'est pointer du doigt la fonction publique. Alors, je sais pas.
Mais il y a une question de timing, on est d'accord avec ça.
Je sais pas si c'est le bon moment, de faire ça.
Si c'est le bon moment, on est en pleine discussion budgétaire, il faut faire des resets aux Républicains, peut-être au Rassemblement National, donc le moment de
ça. Il y a sûrement une raison.
Il y a sûrement une raison. Ce qui se joue, ce qu'on racontait sur le jour férié, peut-être une raison aussi, finalement. Donc, le timing.
Mais beaucoup doutent, en fait, du chiffrage qui a été annoncé sur les économies qu'on pourrait trouver sur les indemnités journalières, qui est de 1,2 milliard d'euros au total.
Le simple fait de passer d'un à trois jours de carence, c'est 300 millions.
Le total qui sur le sujet...
1,2 milliard.
C'est 1,2 milliard. Et beaucoup... se pose beaucoup de questions sur la réalité de ce 1,2 milliard.
Le chiffrage n'est pas facile parce que
il y a aucune étude d'impact.
La production dans l'administration, c'est quelque chose parfois difficile à estimer, sachant que s'ils sont payés, pas payés, en tout, c'est compliqué à faire. Voilà
pour notre quart d'heure serpent de mer sur BFM Business. On fait une petite pause.
BFM Business, l'info éco.
18h30, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Faut-il supprimer un deuxième jour férié en France ? Donc le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, s'est dit ouvert ce matin à une discussion sur le sujet au Parlement. Tout ce qui permet de montrer qu'on peut travailler davantage va dans le bon sens, c'est ce qu'il a déclaré à l'Assemblée nationale. L'Europe, pendant ce temps, ça y est, a adopté, c'est officiel, le projet qui va lui permettre d'imposer des surtaxes allant jusqu'à 35% sur les voitures électriques en provenance de Chine. La mesure entrera en vigueur après-demain jeudi, malgré l'hostilité de certains pays, on le sait, comme l'Allemagne notamment. Côté entreprise, Vivendi annonce que son conseil de surveillance a validé le projet de scission du groupe en 4 entités distinctes, Canal+, Havas, Louis Hachette Group et Vivendi SE. Les actionnaires se prononceront sur ce projet début décembre. Et puis la décision de justice est tombée aujourd'hui. Daloyau, le traiteur de luxe qui était en redressement judiciaire, Dall'Oyo va finalement être repris par Potel et Chabot, filiale du groupe Accor. Il l'emporte face à Elior, qui était son principal concurrent sur ce dossier. 18h31, on revient avec nos experts. On est ensemble jusqu'à 19h sur BFM. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti avec nos experts jusqu'à plus soif, on va dire, jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous nos sujets. Ce soir, Béatrice Mathieu pour l'Express, Benjamin Gian pour Brent Trust et Bruno Coquet pour l'OFCE. De quoi est-ce qu'on va parler? D'Emmanuel Macron, vous savez, qui poursuit sa visite d'État au Maroc. Il y est depuis hier, il y est jusqu'à demain. Beaucoup de contrats qui ont été annoncés depuis ces dernières heures. Et il y a quelques minutes, il a plaidé pour un renforcement des coopérations économiques. Alors, pas seulement entre la France et le Maroc, mais au-delà, entre l'Europe et l'Afrique, pour contrer, dit-il, l'hégémonie américaine et chinoise dans les prochaines années. Écoutez Emmanuel Macron tout à l'heure.
On voit aussi que des tarifs sont en train de se mettre en place et que la Chine d'un côté, les États-Unis d'Amérique de l'autre, développent une stratégie qui, pour les Européens en tout cas, doit être regardée de près et conduite à reconsidérer beaucoup de nos chaînes de valeur. La France et le Maroc, et au-delà de ça, l'Union européenne et l'Afrique, ont à concevoir un avenir ensemble dans cet espace. Je vous le dis avec la plus grande des convictions. Nous avons, si nous voulons préserver notre souveraineté technologique et industrielle, sans rien de céder de ce que les autres nous permettront de continuer de faire, il nous faut bâtir les moyens de réduire notre exposition au risque. Et donc oui, concevoir, produire davantage entre le Maroc et la France, entre l'Afrique et l'Europe.
Voilà Emmanuel Macron, il y a quelques instants, lors d'une conférence de presse au Maroc. Il y est surtout allé pour une opération rabibochage, là, après deux années de brouille avec le Maroc, hein, disons-le clairement.
Bien sûr, c'est une opération très, très géopolitique, ouais, diplomatique, et qui, comme à chaque fois dans ce genre d'opération, il y a un certain nombre de grands contrats. On verra dans trois ans ce qui restera de ces grands contrats, parce que très souvent aussi...
Alors, il y a pas mal de choses dans l'énergie, dans les transports, dans la logistique, dans les infrastructures, dans le numérique.
Voilà, beaucoup de choses ont été annoncées. Ça se fait dans un contexte aussi où les relations entre le Maroc et l'Algérie sont exécrables, elles sont devenues encore plus exécrables. À chaque fois, ça monte d'un cran. On se demande jusqu'où ça va aller. D'ailleurs, ça s'est encore intensifié cet été.
À cause du Sahara occidental, évidemment.
La traduction sur un strict plan, point de vue économique, c'est par exemple les échanges d'électricité, en fait, d'énergie sont bloqués depuis cet été. Et quand on regarde dans la tectonique des plaques et qui se rapproche de l'Algérie, c'est assez marrant, en fait, de voir que si l'Italie, oui, qui est en train de se rapprocher à travers un grand projet, en fait, de pipeline sur le gaz naturel qui passe, qui relie l'Italie à l'Algérie en passant par la Tunisie, et qui sera le vecteur le plus important, en fait, de fourniture de gaz naturel venant du sud vers l'UE. Donc on voit bien que les choses changent et que, oui, l'Italie, dans ce jeu en fait, entre l'Algérie et le Maroc, joue un rôle assez
important. On voit nos confrères de l'Opinion qui rappelaient hier que les Italiens espéraient récupérer des contrats que les Français ne pourraient plus récupérer du fait de cette brouille diplomatique. Les céréaliers, notamment en français, n'ont pas été consultés il y a de ça quelques semaines au moment de négocier le ravitaillement du pays de l'Algérie pour l'an prochain. Donc voilà, les choses commencent quand même à se tendre. Oui, Benjamin.
Cette histoire de la France et du Maroc, c'est l'histoire d'une longue brouille qui était complètement injustifiée.
Ouais.
Moi, je suis content que Emmanuel Macron soit revenu sur cette fâcherie qu'il y avait entre nos deux pays.
Il a bougé sur le Sahara occidental. Oui, alors il y a d'autres pays avaient déjà bougé. Hein, les Américains, les Espagnols, les Allemands avaient déjà bougé.
Yatar Benjelloul qui a eu une phrase assez sévère sur une radio nationale, je crois que c'était hier, en disant on ne peut pas être amis avec le Maroc et l'Algérie en même temps. Il faut choisir. On peut trouver une position un peu médiane et se dire que pour une fois Emmanuel Macron a choisi le Maroc et c'est une bonne chose. Mais moi je voudrais dépasser les simples questions purement économiques, parce que on est effectivement dans les questions de gazoduc, de contrats, d'usines, mais il y a un point qui est en dehors de tous les radars, c'est quand même la question qu'on qu'on ne parle plus, mais c'est de la menace terroriste islamiste dans la bande sahélo-saharienne. Et le geste quand même que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, il est quand même décisif sur cette question-là, parce que depuis 2016, Mohamed VI a quand même eu une position sur les risques terroristes dans cette partie du pays qui a été particulièrement dur, en disant que le terrorisme islamiste devait être combattu. Et on connaît bien, c'est très documenté, les liens qu'il y a entre le Front Rond Polisario et ACMI au Maghreb islamique, et le fait que la France redonne ce petit coup un peu de sympathie envers le Maroc en lui disant ben, merci de tout ce que vous menez dans cette zone, ce n'est pas neutre. Parce qu'effectivement, notre époque a tendance parfois à mettre les menaces sous le tapis en disant que le risque est ailleurs. Mais cette menace-là qui est aux portes de l'Europe, et effectivement, quand Emmanuel Macron parle, alors là aussi, il retrouve un vieux thème, on parle des vieux refrains, mais ce refrain, effectivement, Europe, Afrique, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on l'emploie. Mais tant qu'il y aura cette menace terroriste au Sahel, rien n'est possible. Donc aujourd'hui, Macron, effectivement, et je rejoins ce que vous avez dit, ce voyage, il est d'abord géopolitique. Et c'est une très bonne chose.
Il est d'abord géopolitique avec une vingtaine de contrats dont on a parlé. Contrats et accords d'investissement qui vont dépasser les 10 milliards d'euros, a priori. Bruno.
Je suis d'accord avec Béatrice, de la promesse de contrat au contrat, généralement dans les voyages.
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a un petit peu de déperdition.
Il y a de l'eau pure. Quelle est l'eau pure à la fin?
Donc, il faut faire attention quand même, voir les vrais contrats, distinguer le vrai contrat du contrat en devenir.
Il y a quand même un millier d'entreprises françaises qui bossent au Maroc aujourd'hui. Hein. Donc, c'est 14 milliards d'euros d'échanges l'an dernier, donc c'est pas rien. C'est le premier marché pour la France, premier débouché pour la France en Afrique, le Maroc, aujourd'hui.
Après, le programme économique là qu'on a entendu dans l'extrait du président de la République,
c'est
un peu vélitaire, on va dire. Hein. Ça ne demande que à se décliner dans le réel. La réalité, c'est que plutôt les liens, y compris économiques, ont plutôt tendance à se distendre.
Oui.
Et il n'a, à part une intention, il n'a pas décliné des moyens pratiques de parvenir à faire ce qu'il dit.
Hein. Et que la Chine a déjà planté pas mal de banderies sur le continent africain.
Depuis longtemps.
Pas
nouveau quand même. Hein.
Y compris les Russes, évidemment, aussi. La Russie, évidemment, Béatrice.
Vous suivez ça de ah bah, oui, oui. Ouais. Chine, Russie, non, c'est plus que des banderies. C'est-à-dire que les gains de parts de marché sont conséquents dans toutes ces questions d'infrastructure, parce qu'ils arrivent avec les financements, avec les banques chinoises qui financent.
Ouais. Quand la France, non seulement la France et le Maroc, mais au-delà, l'Europe et l'Afrique doivent coopérer davantage économiquement pour peser face à l'hégémonie chinoise américaine, là, il est poète, Emmanuel Macron.
Qui va être contre? Bien sûr.
On regarde ce qu'il y a autour du Maroc, il y a l'Algérie et le Mali, deux sont, enfin il y a la Mauritanie aussi, mais les deux sont quand même en relation étroite avec la Russie.
Donc, faut tenir compte effectivement de cette désagrégation des relations aussi avec l'Algérie. Effectivement, on a un vrai sujet pour le coup. On voulait redire un mot, alors pas directement de ce qui s'est joué hier chez Volkswagen, sauf si vous voulez en parler. Un comité d'entreprise qui affirme que au moins 3 sites vont être fermés en Allemagne. La direction, vous avez vu, a pas démenti. Et ça nous amène à nous reposer la question au moment où on sent des inquiétudes en Italie aussi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir des usines françaises? Vous vous rappelez de Carlos Tavares au moment du salon de l'auto qui disait on peut rien exclure. Vous savez que chez Renault, on a négocié dur là pendant plusieurs semaines sur l'évolution des effectifs à 3 ans. Est-ce qu'il faut se poser des questions pour certains sites emblématiques? On voit sur pas mal de sites Stellantis, de plus en plus de chômage partiel désormais.
Bien sûr.
Est-ce que c'est une question de mois? Est-ce que c'est une question d'année? Est-ce que la question est encore taboue aujourd'hui finalement, Bruno?
Elle n'est plus. C'est déjà fermé. Moi, je travaillais chez Renault il y a 20 ans. La France produisait 3 millions de voitures. Aujourd'hui, on doit être à moins d'un million. On a divisé par 3. Pendant le même temps, le marché mondial, lui, il a fortement progressé. Et surtout, les constructeurs français, ils avaient quand même progressé. Pas en France. C'est-à-dire qu'ils vendent ailleurs, on ne va pas leur reprocher, mais on était monté à 7-8 millions de véhicules produits là au milieu des années 2010. Là, on est retombé à 5, la même production mondiale.
Ouais.
Ça veut dire perte de part de marché qu'en 2000. Et donc, du coup, on voit bien que le choix de la localisation en France, il a été fait, c'est non. Après, on nous dit, depuis des années, c'est le coût du travail. Alors, ce que je n'ai jamais exploré en détail, mais qui ne cesse de m'interroger, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, l'année dernière, Stellantis, ils ont accordé, je sais pas, 30% d'augmentation de salaire à leurs employés. Apparemment, ça, alors ça va pas, c'est pas pour le mieux pour Stellantis aux États-Unis, mais quand même, c'était possible. On voit bien que des constructeurs européens, il y en a quelques-uns qui produisent au Mexique aussi, mais quand même parviennent à, et japonais parviennent à produire aux États-Unis et à être compétitifs avec des coûts de travail gigantesques. Et Volkswagen a choisi de tuer ses concurrents européens depuis longtemps plutôt que ses concurrents chinois. Là, il se trouve que c'est ses concurrents chinois qui lui posent problème d'une certaine manière.
Ben oui, c'est ça.
Et
c'est
donc,
ça.
Du coup, on a négocié. Le lobby qui a gagné à Bruxelles, c'est celui qui favorise les constructeurs chinois. Donc, il y a un moment donné, il faut voir une stratégie européenne.
Je cite Tavares au Salon de l'Auto, il ne faut rien exclure. Interview aux Échos, si les Chinois prennent 10% de part de marché en Europe, ils pèseront 1,5 million de voitures. Ça représente 7 usines d'assemblage. Les constructeurs européens devront alors soit les fermer, soit les transférer aux Chinois. Voilà. Et on sait que les usines Stellantis vont être fixées sur leur sort à horizon 3 ans d'ici les prochaines semaines. Donc on va très très vite savoir ce qui se passe.
Mais il y a quelques chiffres qui nous interpellent. Moi je suis allé fouiller un peu le dossier avant de vous voir ce soir. J'ai vu que la production française d'automobiles depuis 2004 a baissé de 60%.
Oui, c'est ça.
Mais si on compare avec les autres pays européens, c'est moins 18 en Espagne, c'est moins 23 en Italie, c'est moins 24 en Allemagne et c'est moins 44, le plus fort, en Grande-Bretagne qui, elle, a perdu toutes ses grandes marques automobiles. Donc là, on arrive avec une forme de paradoxe terrible, c'est que nous, on a des grandes marques automobiles avec de l'innovation. Alors, le salon automobile, on a parlé de la nouvelle R5 électrique, la 4L, cette espèce de renouveau de l'automobile français. Et alors qu'on a un renouveau dans les modèles, dans l'approche de l'automobile, eh ben, on ferme nos usines. Donc, il y a un crash de l'industrie automobile française qui est particulièrement désespérant.
Mais attention, parce que c'est une industrie assez localisée aussi, et donc, du coup, c'est les gens qui produisent, qui vendent généralement dans le même pays beaucoup. Or, le marché européen, il a beaucoup baissé quand même, en volume. En valeur, non, mais en volume, oui. Et donc, du coup, on se source moins en Europe.
Bah, la demande est plus là. La demande est plus sur le marché.
Il y a le prix de nos automobiles qui est très cher aussi. Il y a eu une étude, on voit sur l'étude, la fameuse étude 4L, là, aujourd'hui, qui peut s'acheter une 4L ? À l'époque, tout le monde pouvait s'acheter une 4L. Maintenant, essayez de vous acheter une
4L. En version électrique, là, ça va être plus
d'essayer de vous acheter une 4L.
Les marges opérationnelles, elles sont stratosphériques. Donc, du coup, il y a quand même peut-être des marges de manœuvre.
Encore une fois, j'insiste sur les usines françaises de Stellantis, parce que le groupe le dit, d'ici mi-novembre, donc c'est demain, d'ici mi-novembre, toutes les usines auront leur plan de production à 3 ans. Donc on saura qui a des chances ou pas. Déjà, qu'elle tourne au ralenti.
Elle tourne au ralenti, bien sûr.
C'est fermé, déjà.
Non, c'est pas fermé, mais ça
tourne extrêmement au ralenti.
Quand c'est pareil, c'est du chômage partiel. Douvrin, dans les Hauts-de-France, c'est du chômage partiel.
C'est du chômage partiel. Et donc, il a déjà annoncé qu'il va y avoir, un plan. Ça va être assez terrible. Et c'est dans la continuité de ce que vous avez dit. Je veux dire, c'est pas une nouveauté, la chute en fait de la production automobile sur le sol français, elle est dramatique depuis 15-20 ans. Et donc là, la glissade se poursuit et donc médiatiquement, ça va être très 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 compliqué pour Stellantis.
C'est très dur pour notre balance commerciale.
C'est très dur pour notre balance commerciale, évidemment. Oui, Bruno.
Pendant le même temps, pas les chiffres en tête, mais je pense que l'usine de Valenciennes de Toyota, qui a les mêmes coûts que les autres, produit à peu près toujours entre 200 et 300 000 véhicules par an, et ça ne baisse pas vraiment. Après, ça dépend après du cycle de vie des produits, mais fondamentalement, eux, ils ne se plaiment pas.
Voilà, et il y a les inquiétudes en Italie aussi sur les usines Stellantis, là aussi, qui tournent au ralenti, des grèves et manifestations déjà, donc là aussi, la situation est inquiétante, donc forcément, ça soulève des inquiétudes pour la France. Nous sommes à 7 jours de l'élection américaine, c'est totalement indécis, vous avez des candidats qui continuent de parcourir les fameux swing states. Alors non, Donald Trump, tout à l'heure, était chez lui en Floride, à Mar-a-Lago, il a fait une conférence de presse. Officiellement, on nous expliquait que c'était pour essayer de réparer l'incident de dimanche, vous savez, sur Porto Rico, lors de son grand meeting à New York. Il a fait 1h15 de discours, il n'en a pas dit un mot de Porto Rico. Par contre, ça a été un déluge d'insultes et de critiques à l'encontre de Kamala Harris. Écoutez, 30 secondes, vite fait.
Kamala Harris est aussi responsable de la destruction d'une bonne part de notre économie. Certains des meilleurs financiers de Wall Street me disent qu'ils ne peuvent pas se prononcer publiquement parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais en fait, ils pensent que ça ne va pas bien et en même temps, le marché de Wall Street est en bonne forme. Mais en réalité, si la bourse de New York est aussi forte, c'est parce que tout le monde pense que Donald Trump va être élu. Et c'est ça qui fait monter les cours des actions. On n'a jamais eu ce type d'inflation à ce niveau. Des millions d'Américains se réveillent la nuit, même en se disant qu'il va falloir qu'ils payent leurs dettes. Ils n'arrivent pas à dormir, ils font des cauchemars. Ils n'ont vraiment rien fait de bon à la Maison-Blanche avec Biden et Harris.
Alors écoutez, pour en avoir écouté une partie, je peux vous dire qu'il a annoncé pendant 1h15, pas de prompteur, il a associé des idées comme ça, enfin c'était vraiment, ça n'avait un peu ni queue ni tête. Pas sûr que si Wall Street se porte aussi bien aujourd'hui, ça sera parce qu'on attend une élection de Trump, lui qui a un programme hautement protectionniste où il base tout sur les droits de douane et le...
Oui.
Non, c'est pas ça qui porte Wall Street aujourd'hui,
non,
fondamentalement.
Non, d'autant plus qu'effectivement, le programme de Trump peut avoir un impact inflationniste plus important.
Bien sûr.
Voilà. C'est du délire de ce qu'il raconte. C'est difficile d'avoir un discours rationnel sur ce qu'il dit. Et sur Wall Street, moi, j'ai été très étonnée d'un fait, c'est que j'ai regardé l'évolution du cours de bourse, en fait, de la SPAC de Trump Group. Et là aussi, on est dans l'irrationnel total, puisque ce cours a progressé de 270% depuis la mi-septembre.
Ouais, bah.
Donc, il y a une espèce de bulle, en fait, sur ce titre. Alors que à l'intérieur de cette coquille, il y a son réseau social, où on ne sait pas tellement combien il y a d'abonnés réellement, mais ça perd de l'argent, tout ce que ça peut. Donc en fait...
C'est terrible.
Il y a une espèce de truc irrationnel dans cette élection.
Bruno Coquet, comment est-ce que vous voyez cette fin de campagne? Vous, il reste une semaine avant le vote des Américains.
Stratégiquement, il a eu tort de ne pas reconnaître le réchauffement climatique, parce qu'il aurait pu accuser Kamala Harris d'en être responsable. Donc,
il l'a déjà accusé de l'inflation monstre, hein, qui a été la même pour l'ensemble de la planète, hein, grosso modo.
Oui,
voilà.
Non, ma perception, c'est que je pense qu'on est assez loin de tout ça, fondamentalement, et de la rationalité de l'électeur américain. On raisonne en européen. Les Européens votent démocrate depuis toujours, à 80%, donc ils ne comprennent pas le républicain, même quand il est raisonnable.
Voilà.
A fortiori, quand il est déraisonnable, je crois que ça ne peut pas se faire.
On est dans le monde de la post-rationalité, donc c'est compliqué pour...
Tout ça nous dépasse. Benjamin Gian, le communicant, comment est-ce que le communicant regarde cette fin de campagne là? Camaralis qui va parler ce soir, grand oral devant la Maison Blanche.
Je vous rejoins totalement, c'est effectivement très dur pour nous Français, nous Européens, de comprendre les États-Unis. Effectivement, on regarde toujours ça avec notre culture politique nationale, et on pense pouvoir décrypter et comprendre. Alors qu'en réalité, cet objet politique américain est difficilement compréhensible. Et notamment, il y a des études qui sont assez intéressantes sur la manière dont Trump s'exprime. Et en fait, plus il est dans l'outrance, plus ce qu'il dit n'a ni queue ni tête, plus il arrive à convaincre. C'est-à-dire que ces outrances, maintenant, sont devenues presque un petit langage commun, et on l'accepte, ça fait partie un peu du folklore, de la culture politique. Et on a attribué à Trump le fait d'une forme de parler vrai, de parler un peu fou, mais finalement qui plaît et qui convainc de plus en plus, dans plus en plus, ses électeurs. Et il y a seulement, effectivement, quelques Américains éclairés. Je prends l'exemple de Robert Paxton, qui est pas le dernier des Américains pour lire l'histoire, et qui, il y a 10 ans, lors de la première élection de Trump, on lui disait, mais nous, Européens, on allait le voir en disant, mais Trump est fasciste. Il nous disait, mais pas du tout, arrêtez de calquer des logiques françaises. Et aujourd'hui, il nous dit, pardon, je me suis trompé.
Mais oui.
Voilà, il y a quelque chose dans l'approche du pouvoir qui est terriblement fasciste.
Benjamin, reste une minute. Ce qui nous interpelle aussi, c'est la stratégie de campagne de Kamala Harris. Il y a eu la convention démocrate fin août, ça s'est envolé, les sondages étaient très bons, puis d'un seul coup, on a l'impression qu'elle n'a pas embrayé. Ben, comment est-ce que vous analysez sa stratégie depuis maintenant quelques semaines, finalement?
Trop rationnel, en fait. Trop rationnel. Face à un individu qui a fait de la politique irrationnelle, il aurait allé fallu chercher des marqueurs qui soient irrationnels.
On a loué le talent des stratèges démocrates pendant cette convention démocrate. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est ça que je comprends pas.
C'est ça qui est terrible. C'est qu'on a face
à... Mais vous avez l'explication, vous?
Je n'ai pas l'explication. Simplement que nous, si on colle nos grilles d'analyse rationnelles en disant, elle a mis des éléments rationnels sur le plateau, ça va marcher? Non. En fait, l'élection ne se jouera pas là-dessus. L'élection, elle se jouera dans un énorme champ irrationnel. Mais ce qui est à l'image de nos grandes démocraties, la France n'est pas forcément mieux lotie. C'est-à-dire qu'on croit toujours que la démocratie est rationnelle, et finalement, on l'a vu qu'il y a une volonté dans toutes les grandes démocraties, une forme de plongeon, de saut en avant. On s'est dit, on a essayé le rationnel. tentons l'irrationnel.
Non, dans cette part d'irrationnel, c'est cette part d'irrationnel qui vous fait dire que rien n'est joué. Là où la petite musique monte, selon lesquelles Trump a 3-4 points d'avance au niveau national.
Moi, je
vous
dis,
est-ce que
2016,
vous dites, voilà, c'est ce que, voilà ce que j'allais
on
dire.
On allait se coucher, c'était voilà, plié, on s'est réveillé, Trump
que,
était là.
Est-ce que 2016 doit nous amener à l'humilité, nous rappeler à l'humilité, l'humilité la plus totale une fois de plus dans cette histoire.
Depuis l'Europe, quand on analyse les États-Unis, je pense une humilité totale.
Bon, en souvenir de 2016, effectivement, comme le dit Benjamin, on est tous allés se coucher en pensant que, et on s'est réveillé avec de drôles
autre chose.
Effectivement, voilà. Allez, c'est l'heure de l'extra time pour finir cette émission comme tous les soirs. Bah, c'est vos coups de cœur ou coups de gueule du soir sur une trentaine de secondes. C'est complètement libre comme à chaque fois. Bruno, est-ce que vous voulez commencer? 30 secondes. Allez, 30 secondes, c'est parti.
Moi,
Bruno.
Je suis admiratif de la réussite de Xavier Niel et de Free, mais quand même, sur ces histoires de vol de données, je pense que quand même, il y a un sujet. Hein. Là, on a eu France Travail, Boulanger, maintenant on a Free. Et mon sentiment, c'est que quand même, on devrait penser à tarifer quand même le vol de données, c'est-à-dire à indemniser les gens. Si vous confiez votre...
Eh oui, le toutes les PME
tant
qui
ça n'aura pas de valeur, tant que ça n'aura pas de valeur de le protéger, il n'y a pas de raison de le protéger bien. Et donc, du coup, moi, je pense que dans l'asymétrie des contrats, surtout que c'est des services payants, il ne s'agit pas de Google où on concède un truc contre un service gratuit. Contre un service payant, je pense qu'il serait raisonnable de penser à tarifer les pertes de données confiées, puisque c'est comme ça, aux marchands sur Internet.
À toutes les petites PME aussi qui traînent un peu des pieds pour s'équiper, se protéger, ces investissements, et c'est beaucoup de choses. Béatrice, 30 secondes, c'est à vous.
Alors, un coup de gueule sur surtout les faussetés qu'on entend sur le Mercosur, où en France, que ce soit les syndicats d'agriculteurs, quel que soit leur bord d'ailleurs de la FNSEA, aux jeunes agriculteurs en passant par la Confédération Paysanne, mais aussi le gouvernement et l'Élysée, qui sont vent debout contre le Mercosur, ou laissant planer la menace où on va être envahi de bœuf brésilien, argentin, de sucre, etc. Et quand on regarde vraiment le détail de cet accord, et notamment ce qui se passe sur le volet agricole, où on a des quotas tarifaires, je donnais juste un exemple en fait sur le bœuf, le quota tarifaire donc de bœuf qui arriverait donc à droit zéro, c'est 1,5% de la consommation annuelle de bœuf de l'UE. Donc bon, je peux bien croire qu'il y a sans doute des problèmes, voilà, c'est pas l'invasion de bœuf argentin ou brésilien.
Et puis il y a un sujet sur les minerais sensibles qu'on peut faire venir aussi hein, dans le cadre de la transition énergétique.
Et puis il n'y a pas que l'agriculture dans ce
volet. Et puis il n'y a pas que l'agriculture, bien sûr, dans ce volet Mercosur, effectivement. Benjamin, 30 secondes, c'est
alors,
à vous.
Il est bientôt 19h, je vais nous ramener à nos assiettes, avec une considération très terre-à-terre. Dans mon coup de gueule, c'est le mercure qu'on trouve dans les boîtes de thon aujourd'hui. Et alors que c'était une protéine, en fait, une protéine animale peu chère, la boîte de thon, et on avait tous confiance parce qu'il y avait cette culture de l'apertiser. Vous savez, la boîte de conserve ne vous fera jamais de mal. Et finalement, on se rend compte que tout fout le camp, puisque même le thon, il y a un problème. Donc, ce sera mon coup de gueule de ce soir.
Voilà, car le thon est un prédateur. J'ai appris ça aujourd'hui. Il est situé haut dans la chaîne alimentaire, donc il gobe tout ce qu'il y a déjà incorporé du thon, c'est-à-dire des poissons plus petits, voilà, et ainsi de suite. Voilà.
Il y a des métaux rares dans le thon.
Et il y a des métaux rares dans le thon. On parle de transition énergétique. Et ben voilà, c'est terminé sur cette note souriante et pleine d'optimisme. Merci à tous les trois d'être venus ce soir, Béatrice Mathieu, Benjamin Gian et Bruno Coquet. Merci, à très vite avec plaisir. L'info revient dans un instant sur BFM Business.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Il est 19h sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, c'est l'un des sujets qui réapparaît par temps de disette budgétaire. Faut-il supprimer un deuxième jour férié? Bonsoir Thomas Asportas. On en parle parce qu'après Antoine Armand dimanche et Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, qui en a reparlé ce matin, Thomas.
Il considère, je cite, que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer à l'effort de redressement va dans le bon sens. Alors le ministre n'en a pas dit plus, il n'a pas désigné un jour précis du calendrier et explique, je cite, qu'il faut laisser de la souplesse pour que ça marche. Et avant-hier, effectivement, c'est Antoine Armand qui avait ouvert la boîte de Pandore en déclarant que c'est une proposition très intéressante, qu'on instruit et qu'il faut regarder de près. Une idée jugée intéressante par le gouvernement, mais qui fait aussi, bien sûr, beaucoup de bruit. Et Bercy prend donc aussi le soin de rappeler que ce n'est pas leur idée, mais celle de plusieurs sénateurs pour financer les EHPAD et le grand âge, et que ce sera donc un débat qui se tiendra au Parlement. En tout cas, c'est une mesure que le gouvernement accueille favorablement parce que c'est une mesure d'économie qui, elle, au moins, a ses chances de passer. Elle passerait au Sénat, à majorité de droite et du centre, et elle a ses chances à l'Assemblée, puisque de nombreux élus de la droite et de la Macronie y sont favorables, et le patronat aussi, plutôt que de geler les pensions de retraite pendant 6 mois ou d'augmenter les charges autour du SMIC, deux mesures auxquelles ils sont farouchement opposés. Supprimer un deuxième jour férié leur irait beaucoup mieux et rapporterait entre 2 et 3 milliards d'euros. La mesure a clairement ses chances.
Donc dans ce cas-là, effectivement, ça se regarde. Merci beaucoup Thomas. On en reparlera avec nos experts jusqu'à 20h, évidemment, sur BFM Business. Pendant ce temps, Emmanuel Macron lui poursuit sa visite d'État au Maroc avec des contrats et des accords d'investissement dont le montant global pourrait atteindre 10 milliards d'euros. Bonsoir Léa Rojo. De quel contrat parle-t-on exactement, Léa ?
Dans les énergies renouvelables, dans l'eau, le secteur portuaire et les transports. Au total, une quarantaine d'accords ont été signés. Veolia va développer un projet de dessalement d'eau de mer présenté par le groupe comme le plus grand d'Afrique et le deuxième plus grand au monde. Objectif, répondre aux besoins en eau de près de 9,3 millions d'habitants. Dans les transports, Alstom et Aegis, les deux groupes français, participeront à la réalisation du deuxième tronçon de la ligne de TGV Tanger-Marrakech. Alstom va d'ailleurs fournir 12 à 18 rames du futur TGV au Maroc. Pour le développement des énergies vertes, maintenant, Total Energy a lui signé un des plus gros accords pour le développement de la filière d'hydrogène vert au Maroc. EDF a signé un protocole d'accord portant sur l'extension d'un parc éolien. Et puis chez Engie, c'est un accord de partenariat dans la transition énergétique qui a été signé pour développer des solutions de production d'électricité issue d'énergie renouvelable. Autre sujet évoqué, celui de l'accès à Internet. Thales et l'Italien Leonardo ont signé un protocole d'accord avec l'opérateur marocain Panafsat pour fournir une connexion Internet au débit par satellite à 26 pays africains. Et puis pour finir, dans le secteur portuaire maintenant, le transporteur maritime CMA-CGM, propriétaire de BFM Business, va s'associer à Marsa Maroc pour équiper et exploiter la moitié d'un terminal à conteneurs dans le nord du Maroc. Safran, l'équipementier aéronautique, va lui mettre en place un site de maintenance et de réparation qui devrait être opérationnel d'ici 2026.
Voilà pour quelques-uns des principaux contrats conclus pendant cette visite. Merci beaucoup Léa. Léa rejoue avec nous sur BFM Business. L'Europe, elle, pendant ce temps, ça y est, c'est officiel, a adopté le projet qui va lui permettre d'imposer, vous savez, des surtaxes qui peuvent aller jusqu'à 35% sur les voitures électriques en provenance de Chine. La mesure entrera en vigueur après-demain jeudi, malgré l'hostilité de certains pays, comme l'Allemagne notamment. C'est de notoriété publique. 19h04, l'actualité des entreprises, avec des choses qui se passent chez Vivendi. Bonsoir Mathieu Pechberti. On savait que Vivendi avait l'intention de se scinder en plusieurs entités. Ce projet a été validé en interne et on apprend qu'il valorise la seule entité Canal+ à quasiment 7 milliards d'euros. C'est ça, Mathieu ?
C'est le véritable enjeu de cette scission, de ce découpage, de cette vente à la découpe de Vivendi qui sera effectivement maintenant éclatée en 4 sociétés en réalité, toutes cotées en bourse. Alors Canal+, quand même, il faut le dire, sera cotée à la bourse de Londres et non pas de Paris. Ça fait un petit peu jaser quand même dans les milieux financiers. Effectivement, on attendait de savoir combien vaudra Canal+, en tout cas combien espère Vivendi que Canal+ vale. Et on est effectivement proche des 7 milliards d'euros, ce qui est quand même une valorisation assez importante. Ouais. Vivendi essaye de refaire, on va dire, une opération financière assez belle, comme il l'avait fait il y a 3 ans avec Universal Music, même si Universal était valorisé bien plus que cela. Et il y a aussi le retour en bourse d'Havas, groupe de publicité dirigé d'ailleurs par le fils de Vincent Bolloré, Yannick Bolloré, qui lui aussi avait été coté en bourse à Paris à l'époque. Havas valait 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, il n'est valorisé plus que 3 milliards et demi d'euros. Havas a quand même peu grandi depuis ces années sous l'ère Vivendi et Vincent Bolloré. Et puis Havas sera quand même coté à la bourse d'Amsterdam, ce qu'on savait déjà, et toujours pas à la bourse de Paris. C'est un signal pas très positif. Et puis il restera une myriade de sociétés dans lesquelles le groupe Vivendi et Vincent Bolloré ont investi ces dernières années qui seront chez Vivendi. On ne sait pas encore ce que Vincent Bolloré en fera, notamment au capital de Telecom Italia, de Mediaset, de Prisa. Bref, encore quelques opérations financières qu'il pourra opérer dans les futures années.
Voilà, en tout cas, ça a été validé en interne hier et ce sont les actionnaires qui se prononceront en début décembre sur ce projet. Merci beaucoup Mathieu. Dans l'actualité des entreprises toujours, la décision de justice est tombée tout à l'heure. Dalloyo, le traiteur de luxe qui était en redressement judiciaire, va finalement être repris par Potel et Chabot, qui est une filiale
d'accord, bien sûr. Alexandra Paget.
Potel et Chabot n'étaient pas donnés favoris, sa mise de départ était moins importante que celle d'Elior. Le géant de la restauration collective, filiale de Richebourg, proposait de reprendre l'intégralité des activités, les 5 magasins en propre et l'ensemble du personnel de Daloyau. Mais c'était compté sans Sébastien Bazin. Le patron d'Accor qui possède Potel et Chabot voulait absolument mettre la main sur la vénérable maison. Il a donc mis tout son poids dans la balance et Potel et Chabot s'est aligné sur l'offre d'Elior. Outre les 3,3 millions d'euros de la cession, le traiteur s'est engagé à en investir 15 autres pour rénover le vaisseau amiral de Daloyau dans le 8e arrondissement parisien, les boutiques, le laboratoire et à investir dans le marketing et à ne pas procéder à des licenciements contraints pour raisons économiques pendant 2 ans. Et Daloyau pourrait être redéployé au sein des hôtels du groupe Accor, présent partout dans le monde, ainsi que dans les gares et les aéroports.
Voilà, Daloyau donc qui va être repris officiellement par Potel et Chabot. Et puis grosse semaine à Wall Street puisque dans les prochains jours tous les géants de la tech vont publier leurs chiffres du troisième trimestre. Ça va commencer avec Alphabet ce soir après la clôture du marché américain. Ça va sans doute donner la tendance. Adrien Guillaume Padovan.
Cette semaine, 32% des plus grandes entreprises américaines publieront leurs résultats. Les GAFAM seront scrutées à la loupe car leur performance pourrait influencer la dynamique des marchés américains selon Guillaume Gérino, gérant de portefeuille chez Carlton Selection.
Si on a des résultats qui sont en dessous des attentes, ça peut évidemment tirer tout le marché vers le bas. Mais le cas contraire est aussi vrai. On l'a vu la semaine dernière avec Tesla. Tesla qui a sorti de très bons résultats, ça a tiré le Nasdaq alors que tous les autres indices étaient en repli.
Ces géants technologiques devraient représenter une part significative de la croissance des bénéfices aux États-Unis pour le troisième trimestre. Et pour certains analystes, comme John Plassard, spécialiste investissement de Mirabeau, c'est surtout la tendance de consommation et l'évolution du marché de la tech qui importe, notamment pour Apple, la plus grande capitalisation boursière au monde.
Ce qui a, c'est plutôt les préoccupations qui concernent le ralentissement des ventes de l'iPhone 16 et de la réduction des objectifs de production. Hein. C'est plutôt l'annonce de ce qui va se passer au prochain trimestre qui sera important plutôt que les chiffres en eux-mêmes.
Pour Alphabet, ce soir, les investisseurs porteront une attention particulière à la croissance des revenus publicitaires, notamment sur YouTube.
Voilà les gens de la tech qui vont dérouler leurs chiffres dans les prochaines heures. On suivra ça évidemment de très très près sur BFM Business. 19h08, ben justement, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Aude Sulek. On a terminé en baisse ce soir à la Bourse de Paris.
Oui, un recul de 0,6%, 7511 points. Ça s'était pourtant bien passé au début de la journée, mais emporté par la baisse à Wall Street. On a finalement terminé dans le rouge, un recul des valeurs industrielles assez marqué, notamment chez Stellantis ou encore les électriciennes Schneider ou Legrand. Ça montait en revanche pour la tech, téléperformance Dassault Systèmes, ST Microelectronics. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qui pèse sur les indices en ce moment. C'est la montée du taux 10 ans américain, une tension sur les taux obligataires, 4,30% franchi aujourd'hui. On a même été encore plus haut pendant la séance tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a des résultats qui sont très mal arbitrés du côté de Wall Street. On peut citer Ford avec le PDG qui voit une guerre des prix et Ford qui en serait plutôt perdant parce qu'ils sont obligés de faire des gestes commerciaux. Ça réduit leur marge. Ils ont des surstocks en plus en ce moment. On perd donc 8% en ce moment à Wall Street sur ce titre spécifiquement Ford alors que les indices américains sont en ordre dispersé.
Merci beaucoup Aude Kersulek avec nous sur BFM Business, 18h09, la campagne américaine tout de suite.
USA 2024, la présidentielle.
On est à une semaine du vote des Américains. Bonsoir Benoud Abdedaïm.
Bonsoir.
Une fois encore, on a entendu Trump accuser Taïwan, je cite, de voler l'industrie américaine des semi-conducteurs. Vers quoi cela peut-il nous mener, Ben Aouda ?
Vers des droits de douane, que compte imposer le candidat républicain en puces électroniques en provenance de Taïwan. Il ne précise pas à quelle hauteur, il ne précise pas comment. Selon lui, ces industriels taïwanais volent, je cite, leurs homologues américains. Donald Trump parle dans un entretien de leur activité. S'agit-il de propriété intellectuelle, de segments de production, de marchés internationaux ? Ni lui, ni sa campagne ne fournissent de précisions. Les analystes se perdent donc en conjectures. Quant aux modalités, ceux de la banque américaine Citi préviennent que l'instauration de ces surtaxes douanières nécessitera des audits complexes sur des milliers d'appareils. Quoi qu'il en soit, l'ex-président établit aussitôt un lien avec la protection qu'accordent les États-Unis à Taipei. Dans son raisonnement, Washington n'acceptera plus cette ingratitude. Donc, le numéro 1 taïwanais et mondial TSMC devra abandonner de la production la plus en pointe à des entreprises américaines sur le sol américain. Donald Trump refuse que les Taïwanais, bénéficiant de fonds publics d'une législation américaine en vigueur depuis 2022, procèdent à cette implantation. Le ministère américain du Commerce octroie à TSMC un financement de 7 milliards de dollars pour la construction d'une troisième usine en Arizona. Mais d'après la campagne républicaine, quel que soit le coup de pouce du contribuable américain, les sociétés étrangères, donc taïwanaises, ne consentiront jamais à transférer leur meilleur savoir-faire. Tout à l'heure, le Premier ministre taïwanais a surtout exprimé son désaccord avec cette accusation de vol. Taïwan a développé son industrie des semi-conducteurs par ses propres moyens.
Et comment l'actuel gouvernement américain se positionne-t-il, du coup, en attendant ?
Alors, l'administration Biden, vaille que vaille, tente de rassurer Taipei. Un diplomate américain de haut rang vient d'arriver aujourd'hui. Il est question de poursuivre la collaboration dans les dossiers d'intérêt mutuel, sécurité régionale, échanges commerciaux et investissements mutuellement bénéfiques, comprendre ceux où les deux parties y gagnent. Le chef du gouvernement taïwanais a quand même jugé utile aujourd'hui de faire part de sa conviction que les États-Unis restent une démocratie mature et que les relations se poursuivraient sur les bases existantes. Il y a 3 mois déjà, Donald Trump avait formulé une accusation identique contre l'industrie taïwanaise des puces et le ministre taïwanais de l'économie disait penser qu'il avait été induit en erreur. La thèse que tente actuellement Taipei, c'est que les entreprises technologiques taïwanaises ont insuffisamment investi dans le lobbying politique à Washington. Une demi-douzaine de consultants embauchés à cet effet, là où le sud-coréen Samsung Electronics a lui seul en a recruté 300. Quoi qu'il en soit, l'ex-président ne dévie pas de son idée que Taïwan va devoir payer pour être protégé face à la Chine. Aucun achat d'armement américain ne le convainc que c'est le cas. Le gouvernement Biden vient d'approuver la livraison d'un immense système avancé de défense antimissile d'une valeur de 2 milliards de dollars. Un conseiller à la sécurité nationale sous la présidence Trump, acquis à la cause de Taipei, soutient lui que si son ancien patron est élu, de toute manière, Taïwan est potentiellement grillé.
Et voilà, Taïwan dans le viseur de Donald Trump à une semaine du vote des Américains. Merci beaucoup, Ben Aouda. À demain.
USA 2024, la présidentielle.
Il est 19h13, rediffusion du débat de nos experts dans un instant. De quoi est-ce qu'on parle? Le jour férié, deuxième jour férié à supprimer, le serpent de mer par excellence. Emmanuel Macron, Maroc, et puis l'industrie auto-européenne dans tous ces états. Des sites vont être fermés chez Volkswagen en Allemagne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les sites français? Carlos Tavares disait récemment qu'il ne fallait rien exclure pour Stellantis en France. Tout ça, plus d'autres choses, jusqu'à 20h, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h16, ils sont là, nos experts, comme tous les soirs, pour refaire l'actu en direct jusqu'à 19h, évidemment. Béatrice Mathieu est avec nous. Béatrice, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Rédactrice en chef à l'Express. Benjamin Gian est avec nous. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur et patron de Brain Trust, ancienne plume à Matignon, du temps de Manuel Valls et communicant, évidemment. Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Merci à tous les trois d'être avec nous dans l'actualité ce soir. Et allez, c'est reparti, quasiment tous les jours. On nous ressort un vieux serpent de mer pour essayer de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. Hier, c'était les arrêts maladie pour les fonctionnaires. On va en reparler d'ailleurs dans un instant. Aujourd'hui, c'était la suppression d'un deuxième jour férié, 20 ans après le lundi de Pentecôte. C'est Laurent Saint-Martin qui a remis ça sur le tapis ce matin. Écoutez.
Ça fait partie des débats qu'on aura au Parlement. Okay. Le gouvernement ne l'a pas proposé, mais je crois que certains parlementaires veulent le présenter.
En tant que ministre du Budget ?
Moi, je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer justement à l'effort de redressement va dans le bon sens.
Et vous en choisirez en particulier ? Il faut laisser les entreprises choisir ?
Je crois qu'il faut souvent laisser de la souplesse pour que ça marche. À l'expérience, c'est quand même ça qui fonctionne.
Il paraît qu'il y a quelques années, quand le dossier était ressorti, tout le monde visait le jeudi de l'ascension parce qu'on se disait, on va faire coup double, on va sauver et le jeudi et le vendredi en termes de productivité. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Donc là, il n'est pas allé aussi loin, Laurent Saint-Martin. Mais quand on regarde les chiffres, le lundi de Pentecôte, ça rapporte entre 2 et 3 milliards d'euros tous les ans. Ça se regarde quand même, non ?
Je sais pas. 1,2 milliards l'année dernière. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, C'est tellement lissé, c'est-à-dire qu'on se focalise sur ce lundi de Pentecôte, mais en réalité, il y a plein de ces fériés encore, donc c'est,
ah bah oui,
c'est non travaillé pour encore beaucoup de gens, parce que c'est soit lissé sur l'année, oui, soit pris,
soit les boîtes l'offre, voilà,
une journée de RTT en moins, donc se dire est-ce qu'il faut que ce soit le jeudi de l'Ascension ou un autre jour, bon, ça sera lissé pareil.
Mais ça rapporte quand même 2-3 milliards.
Ça rapporte 2-3 milliards, oui. L'estimation qui a été faite là sur un deuxième jour, c'est que ça rapportera un petit peu moins, 2,4 milliards a été faite.
Parce qu'il y a des astuces.
Voilà. Mais bon, on voit bien que tout est fait pour ramener
à partir du moment où vous ne rentrez pas dans les grandes réformes structurelles, vous êtes obligé de ramener. Voilà, avec... voilà. Comment ça, il y a des astuces?
En fait, ça a été créé au début des années 2000. Et
le lundi de Pentecôte, oui, après la canicule. Oui.
En fait, il y avait la composante qu'on connaît aujourd'hui, c'est le 0,3% qui va financer, ouais, la solidarité et l'autonomie.
Ouais.
Donc
ouais,
les 2,3 milliards, qui est le même chiffre qu'en 2012. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, a disparu la partie de 0,3% qui portait sur tous les revenus du capital. Il y avait un 0,3% là-dessus aussi. Et il y avait 0,1% sur la partie de la CSG non déductible. Comme il y a la CSG, ça rapporte 146 milliards. Mmh. Même si on est sur la toute petite partie, ça rapportait beaucoup plus. Et donc, du coup, il y a une petite entourloupe au sens où la CNSA, l'autonomie, n'en bénéficie pas à peu près, elle a perdu les deux tiers, de ce qu'elle aurait dû, de ce qu'elle aurait dû avoir. Et puis après ça, l'autre entourloupe, c'est que il y a 150 jours non travaillés dans l'année.
Ouais. Bah c'est, oui, c'est des
week-ends. Chacun rapporte.
Parce que, c'est des week-ends. Hein,
parce que, oui, voilà.
Enfin, 2 ou 3 milliards, c'est la taxe.
Oui. Hein,
d'accord. Mais donc le total rapporte à peu près 40 milliards, enfin, autour de 35 milliards de PIB en plus, c'est ce qui est vendu. Donc si on supprime tous les jours de repos pendant à peu près, j'ai pas fait le calcul, entre un an et demi, on paye toute la dette.
Ah bah c'est bien, oui, oui.
Donc, on voit bien que c'est non linéaire, comme on dit en économie.
Vous devriez être ministre, hein,
Mais bon, et donc tout ça n'est pas super miraculeux non plus, quoi. Hein. Donc, on voit bien le rendement de la taxe pour financer le budget, le PLFSS, ça marche assez bien. Après, le problème, c'est que si on fait travailler plus les gens à salaire constant, à court terme, on va voir que ça a plutôt tendance à détruire de l'emploi. À long terme, ça n'en crée que si les prix baissent. Hein, donc voilà.
C'est Benjamin, comment est-ce que vous regardez cette séquence? Tous les jours, ça taxe et tous les jours, on déterre un vieux dossier qu'on n'a pas.
Voilà, la France est un grand pays qui aime se poser des petites questions. Là, on est effectivement dans une énorme réforme structurelle. Hein. On part la question par le petit bout de la lorgnette. Mais moi, j'ai envie de complexifier la question, puisque on se pose cette question d'un jour de plus de vacances, retirer un jour de congé. Moi, je me demande quel est le message aussi que l'on envoie, parce que on va traiter tout le monde à la même enseigne. Je pense que ce serait plutôt astucieux de réfléchir justement sur ces jours travaillés. Comment évolue le travail aujourd'hui? Il y a peut-être des gens qui, je pense aux cadres, ceux qui télétravaillent, peut-être que ce jour de vacances, on peut peut-être leur retirer. Mais effectivement, quand on est un petit salarié, un petit ouvrier, et qu'on vient nous dire encore, pour payer, il faut vous retirer un jour de congé, je trouve que...
Là, on vous vend ça en termes, c'est pour financer les EHPAD. Hein, oui,
mais je trouve que cette réforme telle qu'elle est annoncée, c'est encore une addition assez salée pour les petites gens. On leur dit, on va vous retirer un jour de congé, qui est quand même pas rien dans une vie. On dit pour payer, il faut qu'on me retire un jour de congé. Donc j'aurais aimé quelque chose de peut-être un peu plus articulé, où on se dit ce jour de congé, on le retire à certains, peut-être ceux qui justement ont un rapport au travail qui évolue, ou qui font des longs week-ends, ou qui peuvent aller travailler ailleurs, et se dire que ce jour de vacances-là, peut-être ce jour de congé, voir comment vous le redonner à la solidarité nationale, et pour d'autres peut-être les laisser.
Bien sûr, on commence à faire ça à la carte, etc. Que c'est une usine à gaz, ça me paraît quand même très compliqué.
Puisqu'on rentre dans l'usine à gaz,
allons-y. En tout cas, il y en a certains qui s'appelaient. Écoutez le député Les Républicains Charles de Courson, qui était enthousiaste ce matin à ce sujet. Tiens.
Cette journée qui a l'avantage, si vous voulez, de ne pas augmenter les taux de cotisation sur les salariés et les employeurs. Vous voyez. Et donc c'est un effort. En fait, ça consiste à faire travailler 7 heures supplémentaires sur l'année.
Oui.
Alors je rappelle que à 35 heures en plein temps, c'est 1607 heures. Donc oui. On passerait de 1607 à 1614. C'est quand même un effort tout à fait raisonnable pour financer la branche dépendance.
Voilà, donc c'est pas le Perrault, dit en gros Charles de Courson, c'est ça qu'il nous dit.
Il dit c'est pas le Perrault, mais il dit un truc faux, c'est ça augmente le taux de prélèvement obligatoire.
Ça élève le taux de prélèvement obligatoire.
Oui, bien sûr, mécaniquement ça va l'élever. Puisque le 0,3% est mis a priori sur les entreprises, et puis après charge à elles de négocier un jour de travail en plus.
Oui,
c'est quand même comme ça que ça fonctionne.
Bon, on va attendre de voir plus clair, on va voir effectivement. Alors, le ministre dit ça fait partie des débats qu'on aura au Parlement, donc on verra ce qui se passe. Il va se passer d'ici pas mal de choses. Comment vous avez observé le retour hier de cet autre serpent de mer, donc les arrêts maladie, gouvernement qui veut donc passer de 1 à 3 jours de carence dans la fonction publique comme dans le privé. Tiens, écoutez, Sophie Binet, la patronne de la CGT, littéralement furax aussi ce matin, évidemment.
C'est mensonger. Les salariés du privé, nous battons pour gagner une neutralisation de ces jours de carence et pour plus de 70% des salariés du privé, c'est le cas, puisque nous avons des accords d'entreprise ou de branche qui permettent de garantir le maintien de la rémunération dès le premier jour d'arrêt maladie. Et ensuite,
à travers des complémentaires, notamment.
Oui, tout à fait. Cette annonce, elle est vécue comme une insulte pour les plus de 5 millions de fonctionnaires qu'on fait encore une fois passer, et pour des privilégiés, et pour des gens qui choisiraient d'être en arrêt maladie.
Voilà, alors qu'on s'intéresse aux causes de l'absentéisme dans le public ou dans le privé, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a un vrai tabou sur l'absentéisme dans la fonction publique aujourd'hui, Bruno ?
Ah ben oui.
Peut-être. Alors première remarque, moi c'est pour moi, si on se refait, c'est comme le sujet précédent, le programme de l'ENA au début des années 2000, donc on passe toutes les pages. Il y a un problème d'absentéisme, parce que ça a évolué. Donc il y a toujours eu un peu plus dans la fonction publique pour des raisons que je ne connais pas que dans le secteur privé, mais depuis le Covid, ça a beaucoup plus augmenté dans la fonction publique. Avant, l'écart était de 1 jour, maintenant il est de 3 jours en moyenne.
Mais c'est disparate cette hausse au sein de la fonction publique même. Je veux dire, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Il y a énormément de disparités, ça me semble assez clair.
Ouais.
Après ça, moi je pense que la solution pourrait être de plafonner dans les systèmes sociaux. On a plein d'avantages sociaux comme ça, enfin si c'est un avantage social, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais qui sont plafonnés. C'est-à-dire on dit, voilà, vous avez la moyenne, c'est 9 jours, vous avez droit à 9 jours par an, en regardant les populations, parce qu'il y a des populations plus ou moins exposées, les femmes, les seniors, etc.
Et donc, on exclut tout ce qui est exclu ALD, tout ça, affection longue durée, on exclut évidemment.
Mais donc, si abus il y a, ces abus, ils sont facilement identifiables par profession, par type d'employeur, etc. Et donc, on peut les limiter de cette manière-là, sans prendre une mesure qui va pénaliser tout le monde.
Oui.
Hein, puisque si on met 3 jours à tout le monde, quoi qu'il arrive, du coup, on pénalise tout le monde pour peut-être des gens qui ont abusé à la marge.
Non, mais là, il y a un sujet, parce que l'INSEE dit entre 2019 et 2022, on a gagné entre guillemets 7 jours d'absentéisme dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction territoriale. Autant dans l'hôpital, on peut comprendre, autant dans la fonction publique territoriale, on a du mal à comprendre.
Non, mais c'est vrai que les disparités, c'est vrai que l'écart, c'est creusé entre le privé et fonction publique. Au sein même de la fonction publique, il y a visiblement quand même un problème de fonction publique territoriale.
Oui.
L'argument assez basique de dire il faut aligner le public sur le privé, effectivement, il ne tient pas. Et en cela, Sophie Binet a assez raison, puisque 3/4 des salariés du privé, c'est compensé par le système de complémentaire. Et que,
Des contrats de prévoyance.
Oui. En revanche, effectivement, pour le fonctionnaire, quand c'est le premier jour, ça tombe. Je pense que il faut intensifier considérablement les contrôles ce qui est fait pour lutter contre la fraude, et ce qui ramène peu au regard de ce qui pourrait être ramené compte tenu des dérives qu'on peut observer dans
les effectifs aussi pour faire ces contrôles, pour renforcer ces contrôles.
Oui, et d'ailleurs,
tout à fait. Benjamin, comment est-ce que vous regardez ce sujet aussi? Serpent de mer, on est dans les serpents de mer. ministère de
Moi, je trouve que le problème est mal amené parce qu'effectivement, la réalité des faits, on voit que les salariés du secteur privé sont. Il y a un rapport de l'IGAS qui l'a montré. Pour 2/3 d'entre eux, sont protégés de ces trois jours de carence.
C'est vrai.
Donc j'ai l'impression pose mal le débat et qu'en fait, encore une fois, dans notre pays, qui devrait être un pays du dialogue social, là, on se dit la facilité, c'est pointer du doigt les fonctionnaires en disant 3 jours de carence pour eux, alors qu'en montrant l'exemple du privé qui n'est pas un exemple réel. Donc on voudrait avancer sur un vrai sujet qui est l'absentéisme effectivement dans la fonction publique, et on s'y prend tellement mal, c'est ça qui est terrible, c'est que on va chercher un exemple qui en un instant s'effrite totalement, et donc au final on va pas traiter le sujet. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pas traiter le sujet parce qu'on prend pas le bon référentiel. Et c'est malheureux.
Et le sujet, c'est celui des conditions de travail dans la fonction publique. Mais le problème se pose de la même façon
dans laquelle
secteur privé.
Fonction publique, c'est encore
ça.
Très...
Et encore, je suis sûr qu'il y a des communes où il y a peu d'arrêts maladie, communes où il y en a beaucoup.
Mais je veux dire, ça, les données, en fait, sur l'absentéisme commune par commune, elles sont tout à fait connues. Donc, s'il y avait un vrai travail en amont qu'est-ce qui se passe ici, comment ça s'explique, quel contrôle, quel agent peut-être que dans certaines communes c'est très justifié parce que il y a un malaise au travail, parce que il y a
Voilà pour notre quart d'heure Serpent de mer sur BFM Business. On fait une petite pause.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti avec nos experts jusqu'à plus soif, on va dire, jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous nos sujets. Ce soir, Béatrice Mathieu pour l'Express, Benjamin Gian pour Brent Trust et Bruno Coquet pour l'OFCE. De quoi est-ce qu'on va parler? D'Emmanuel Macron, vous savez, qui poursuit sa visite d'État au Maroc. Il y est depuis hier, il y est jusqu'à demain. Beaucoup de contrats qui ont été annoncés depuis ces dernières heures. Et il y a quelques minutes, il a plaidé pour un renforcement des coopérations économiques. Alors, pas seulement entre la France et le Maroc, mais au-delà, entre l'Europe et l'Afrique, pour contrer, dit-il, l'hégémonie américaine et chinoise dans les prochaines années. Écoutez Emmanuel Macron tout à l'heure.
On voit aussi que des tarifs sont en train de se mettre en place et que la Chine d'un côté, les États-Unis d'Amérique de l'autre, développent une stratégie qui, pour les Européens en tout cas, doit être regardée de près et conduite à reconsidérer beaucoup de nos chaînes de valeur. La France et le Maroc, et au-delà de ça, l'Union européenne et l'Afrique, ont à concevoir un avenir ensemble dans cet espace. Je vous le dis avec la plus grande des convictions. Nous avons, si nous voulons préserver notre souveraineté technologique et industrielle, sans rien de céder de ce que les autres nous permettront de continuer de faire, il nous faut bâtir les moyens de réduire notre exposition au risque. Et donc oui, concevoir, produire davantage entre le Maroc et la France, entre l'Afrique et l'Europe.
Voilà Emmanuel Macron, il y a quelques instants, lors d'une conférence de presse au Maroc. Il y est surtout allé pour une opération rabibochage, là, après 2 années de brouille avec le Maroc, disons-le clairement.
Bien sûr, c'est une opération très, très géopolitique, diplomatique, et qui... comme à chaque fois dans ce genre d'opération, il y a un certain nombre de grands contrats. On verra dans 3 ans ce qui restera de ces grands contrats, parce que très souvent aussi...
Alors, il y a pas mal de choses dans l'énergie, dans les transports, dans la logistique, dans les infrastructures, dans le numérique.
Voilà, beaucoup de choses ont été annoncées. Ça se fait dans un contexte aussi où les relations entre le Maroc et l'Algérie sont exécrables, elles sont devenues encore plus exécrables. À chaque fois, ça monte d'un cran. On se demande jusqu'où ça va aller. D'ailleurs, ça s'est encore intensifié cet été.
Cause du Sahara occidental, évidemment.
À cause du Sahara occidental. La traduction sur un stricto plan point de vue économique, c'est par exemple les échanges d'électricité, en fait, d'énergie sont bloqués depuis cet été. Et quand on regarde dans la tectonique des plaques et qui se rapproche de l'Algérie, c'est assez marrant, en fait, de voir que c'est l'Italie qui est en train de se rapprocher à travers un grand projet, en fait, de pipeline sur le gaz naturel qui passe, qui relie l'Italie à l'Algérie en passant par la Tunisie, et qui sera le vecteur le plus important, en fait, de fourniture de gaz naturel venant du sud vers l'UE. Donc on voit bien que les choses changent et que oui. L'Italie, dans ce jeu en fait, entre l'Algérie et le Maroc, joue un rôle assez, assez
on voit ce nos confrères de l'Opinion qui rappelaient hier que les Italiens espéraient récupérer des contrats que les Français ne pourraient plus récupérer du fait de cette brouille diplomatique. Les céréaliers, notamment en français, n'ont pas été consultés il y a de ça quelques semaines au moment de négocier le ravitaillement du pays de l'Algérie pour l'an prochain. Donc voilà, les choses commencent quand même à se tendre. Oui, Benjamin.
Cette histoire de la France et du Maroc, c'est l'histoire d'une longue brouille qui était complètement injustifiée.
Ouais.
Moi, je suis content que Emmanuel Macron soit revenu sur cette fâcherie qu'il y avait entre nos deux pays.
Il a bougé sur le Sahara occidental. Oui, alors il y a d'autres pays avaient déjà bougé. Hein, les Américains, les Espagnols, les Allemands avaient déjà bougé.
Il y a Tahar Ben Jelloun qui a eu une phrase assez sévère sur une radio nationale, je crois que c'était hier, en disant on ne peut pas être ami avec le Maroc et l'Algérie en même temps. Il faut choisir. On peut trouver une position un peu médiane et se dire que pour une fois Emmanuel Macron a choisi le Maroc et c'est une bonne chose. Mais moi je voudrais dépasser les simples questions purement économiques, parce que on est effectivement dans les questions de gazoduc, de contrat, d'usine, mais il y a un point qui est en dehors de tous les radars, c'est quand même la question qu'on ne parle plus, mais c'est de la menace terroriste islamiste dans la bande sahélo-saharienne. Et le geste quand même que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, il est quand même décisif sur cette question-là, parce que depuis 2016, Mohamed VI a quand même une position sur les risques terroristes dans cette partie du pays qui a été particulièrement dur, en disant que le terrorisme islamiste devait être combattu. Et on connaît bien, c'est très documenté, les liens qu'il y a entre le Front Rond Polisario et ACMI au Maghreb islamique, et le fait que la France redonne ce petit coup un peu de sympathie envers le Maroc en lui disant merci de tout ce que vous menez dans cette zone, ce n'est pas neutre, parce qu'effectivement notre époque a tendance parfois à mettre les menaces sous le tapis en disant que le risque est ailleurs, mais cette menace là qui est aux portes de l'Europe, et effectivement quand Emmanuel Macron parle, alors là aussi il retrouve un vieux thème, on parler des vieux refrains, mais ce refrain, effectivement, Europe-Afrique, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on l'emploie. Mais tant qu'il y aura cette menace terroriste au Sahel, rien n'est possible. Donc aujourd'hui, Macron, effectivement, et je rejoins ce que vous avez dit, ce voyage, il est d'abord géopolitique, et c'est une très bonne chose.
Il est d'abord géopolitique avec une vingtaine de contrats dont on a parlé, contrats et accords d'investissement qui vont dépasser les 10 milliards d'euros, a priori. Bruno.
Je suis d'accord avec Béatrice, de la promesse de contrat au contrat, généralement dans les voyages.
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a un petit peu de déperdition.
Il y a de l'eau pure. Quelle est l'eau pure à la fin?
Donc, il faut faire attention quand même, voir les vrais contrats, distinguer le vrai contrat du contrat en devenir.
C'est quand même un millier d'entreprises françaises qui bossent au Maroc aujourd'hui. Hein, donc, c'est 14 milliards d'euros d'échanges l'an dernier, donc c'est pas rien. C'est le premier marché pour la France, premier débouché pour la France en Afrique, le Maroc, aujourd'hui.
Après, le programme économique là qu'on a entendu dans l'extrait du président de la République,
ça
c'est un peu vélitaire, on va dire. Hein. Ça ne demande que à se décliner dans le réel. La réalité, c'est que plutôt les liens, y compris économiques, ont plutôt tendance à se distendre.
Oui.
Et à part une intention, il n'a pas décliné des moyens pratiques de parvenir à faire ce qu'il dit.
Et que la Chine a déjà planté pas mal de banderies sur le continent africain.
Depuis longtemps.
Depuis longtemps.
Pas nouveau quand même. Hein.
Y compris les Russes, évidemment, aussi. La Russie, évidemment, Béatrice. Vous suivez ça de
ça. Chine, Russie, non, c'est plus que des banderies. C'est-à-dire que les gains de parts de marché sont conséquents dans toutes ces questions d'infrastructure, parce qu'ils arrivent avec les financements, avec les banques chinoises qui financent.
Ouais.
Donc
se dire que quand la France, non seulement la France et le Maroc, mais au-delà, l'Europe et l'Afrique doivent coopérer davantage économiquement pour peser face à l'hégémonie chinoise-américaine, là, il est poète, Emmanuel Macron.
Qui va être contre? Bien sûr.
Si on regarde ce qu'il y a autour du Maroc, il y a l'Algérie et le Mali, deux sont, enfin il y a la Mauritanie aussi, mais les deux sont quand même en relation étroite avec la Russie.
Avec la Russie.
Donc faut tenir compte effectivement de cette désagrégation des relations aussi avec l'Algérie. Effectivement, on a un vrai sujet pour le coup. On voulait redire un mot, alors pas directement de ce qui s'est joué hier chez Volkswagen, sauf si vous voulez en parler, un comité d'entreprise qui affirme qu'au moins 3 sites vont être fermés en Allemagne. La direction, vous avez vu, a pas démenti. Et ça, ça nous amène à nous reposer la question. Au moment où on sent des inquiétudes en Italie aussi, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir des usines françaises? Vous vous rappelez de Carlos Tavares au moment du salon de l'auto qui disait « on ne peut rien exclure ». Vous savez que chez Renault, on a négocié dur là pendant plusieurs semaines sur l'évolution des effectifs à 3 ans. Est-ce qu'il faut se poser des questions pour certains sites emblématiques? On voit sur pas mal de sites Stellantis, de plus en plus de chômage partiel désormais.
Bien sûr.
Est-ce que c'est une question de mois? Est-ce que c'est une question d'année? Est-ce que la question est encore tabou aujourd'hui finalement, Bruno?
Bah, elle n'est plus. C'est déjà fermé. Moi, je travaillais chez Renault il y a 20 ans. Hein, la France produisait 3 millions de voitures. Aujourd'hui, on doit être à moins d'un million. On a divisé par 3. Pendant le même temps, le marché mondial, lui, il a fortement progressé. Et surtout, les constructeurs français, ils avaient quand même progressé. Mais pas en France. C'est-à-dire qu'ils vendent ailleurs, on ne va pas leur reprocher, mais on était monté à 7-8 millions de véhicules produits là au milieu des années 2010. Là, on est retombé à 5, la même production mondiale. Donc, ça veut dire perte de part de marché qu'en 2000. Et donc, du coup, on voit bien que le choix de la localisation en France, il a été fait. C'est non. Après, on nous dit, depuis des années, c'est le coût du travail. Alors, ce que je n'ai jamais exploré en détail, mais qui ne cesse de m'interroger, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, l'année dernière, Stellantis, ils ont accordé, 30% d'augmentation de salaire à leurs employés. Apparemment, c'est pas pour le mieux pour Stellantis aux États-Unis, mais quand même, c'était possible. On voit bien que des constructeurs européens... il y en a quelques-uns qui produisent au Mexique aussi, mais quand même japonais parviennent à produire aux États-Unis et à être compétitifs avec des coûts de travail gigantesques. Et Volkswagen a choisi de tuer ses concurrents européens depuis longtemps plutôt que ses concurrents chinois. Là, il se trouve que c'est ses concurrents chinois qui lui posent problème d'une certaine manière. Du coup, on a négocié. Le lobby qui a gagné à Bruxelles, c'est celui qui favorise les constructeurs chinois. Donc, il y a un moment donné, il faut voir une stratégie européenne.
Cite Tavares au Salon de l'Auto, il ne faut rien exclure. Interview aux Échos, si les Chinois prennent 10% de parts de marché en Europe, ils pèseront 1,5 million de voitures. Ça représente 7 usines d'assemblage. Les constructeurs européens devront alors soit les fermer, soit les transférer aux Chinois. Voilà. Sait que les usines Stellantis vont être fixées sur leur sort à horizon 3 ans d'ici les prochaines semaines. Donc on va très très vite savoir ce qui se passe.
Mais il y a quelques chiffres qui nous interpellent. Moi je suis allé fouiller un peu le dossier avant de vous voir ce soir. J'ai vu que la production française d'automobiles depuis 2004 a baissé de 60%.
Oui, c'est ça.
Mais si on compare avec les autres pays européens, c'est moins 18 en Espagne, c'est moins 23 en Italie, c'est moins 24 en Allemagne et c'est moins 44, le plus fort, en Grande-Bretagne qui, elle, a perdu toutes ses grandes marques automobiles. Donc là, on arrive avec une forme de paradoxe terrible, c'est que nous, on a des grandes marques automobiles avec de l'innovation. Alors le salon automobile, on a parlé de la nouvelle R5 électrique, la 4L, cette espèce de renouveau de l'automobile français. Et alors qu'on a un renouveau dans les modèles, dans l'approche de l'automobile, on ferme nos usines. Donc il y a un crash de l'industrie automobile française qui est particulièrement désespérant.
Attention, parce que c'est une industrie assez localisée aussi, et donc du coup, c'est les gens qui produisent, qui vendent généralement dans le même pays beaucoup. Or, le marché européen, il a beaucoup baissé quand même, en volume, en valeur mais en volume, oui. Et donc du coup, on se source moins en Europe.
La demande est plus là, la demande est plus sur le marché.
Il y a le prix de nos automobiles qui est très cher aussi. Il y a eu une étude, la fameuse étude 4L, là, aujourd'hui, qui peut s'acheter une 4L? À l'époque, tout le monde pouvait s'acheter une 4L. Maintenant, essayez de vous acheter une
4L. Électrique, là, ça va être plus
difficile de vous acheter une 4L. Aussi, les marges opérationnelles, elles sont stratosphériques. Donc du coup, il y a quand même peut-être des marges de manœuvre.
Encore une fois, j'insiste sur les usines françaises de Stellantis, parce que le groupe le dit, d'ici mi-novembre, donc c'est demain, d'ici mi-novembre, toutes les usines auront leur plan de production à 3 ans. Donc on saura qui a des chances ou pas. Déjà,
Elle tourne au ralenti, bien sûr.
Quand c'est pareil, c'est du chômage partiel. Douvrin, dans les Hauts-de-France, c'est du chômage partiel.
C'est du chômage partiel. Et donc, il a déjà annoncé qu'il va y avoir, un plan. Ça va être assez terrible. Et c'est dans la continuité de ce que vous avez dit. Je veux dire, c'est pas une nouveauté, la chute en fait de la production automobile sur le sol français, elle est dramatique depuis 15-20 ans. Et donc là, la glissade se poursuit et médiatiquement, ça va être très 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 compliqué pour Stellantis.
C'est très dur pour notre balance commerciale.
C'est très dur pour notre balance commerciale, évidemment. Oui, Bruno.
Pendant le même temps, pas les chiffres en tête, mais je pense que l'usine de Valenciennes de Toyota, qui a les mêmes coûts que les autres, produit à peu près toujours entre 200 et 300 000 véhicules. par an, oui, et ça ne baisse pas vraiment. Après, ça dépend après du cycle de vie des produits, mais fondamentalement, eux, ils ne se plaignent pas.
Voilà, et il y a des inquiétudes en Italie aussi sur les usines Stellantis, là aussi, qui tournent au ralenti, des grèves et manifestations déjà, donc là aussi, la situation est inquiétante, donc forcément, ça soulève des inquiétudes pour la France. Nous sommes à 7 jours de l'élection américaine, c'est totalement indécis, vous avez des candidats qui continuent de parcourir les fameux swing states. Alors non, Donald Trump, tout à l'heure, était chez lui en Floride, à Mar-a-Lago, il a fait une conférence de presse. Officiellement, on nous expliquait que c'était pour essayer de réparer l'incident de dimanche, vous savez, sur Porto Rico, lors de son grand meeting à New York. Il a fait 1h15 de discours, il n'en a pas dit un mot de Porto Rico. Par contre, ça a été un déluge d'insultes et de critiques à l'encontre de Kamala Harris. Écoutez, 30 secondes, vite fait.
Kamala Harris est aussi responsable de la destruction d'une bonne part de notre économie. Certains des meilleurs financiers de Wall Street me disent que ils ne peuvent pas se prononcer publiquement parce que ils ne veulent pas le faire, mais en fait, ils pensent que ça ne va pas bien et en même temps, le marché de Wall Street est en bonne forme. Mais en réalité, si la bourse de New York est aussi forte, c'est parce que tout le monde pense que Donald Trump va être élu. Et c'est ça qui fait monter les cours des actions. On n'a jamais eu ce type d'inflation à ce niveau. Des millions d'Américains se réveillent la nuit, même en se disant qu'il va falloir qu'ils payent leurs dettes. Ils n'arrivent pas à dormir, ils font des cauchemars. Ils n'ont vraiment rien fait de bon à la Maison-Blanche avec Biden et Harris.
Alors écoutez, pour en avoir écouté une partie, je peux vous dire qu'il a annoncé pendant 1h15, pas de prompteur, il a associé des idées comme ça, enfin c'était vraiment, ça n'avait un peu ni queue ni tête. Pas sûr que si Wall Street se porte aussi bien aujourd'hui, ça sera parce qu'on attend une élection de Trump, lui qui a un programme hautement protectionniste où il base tout sur les droits de douane et le...
Oui.
Non, c'est pas ça qui porte Wall Street aujourd'hui,
non,
fondamentalement.
Non, d'autant plus qu'effectivement, le programme de Trump peut avoir un impact inflationniste plus important.
Bien sûr.
Voilà. Donc, c'est du délire de ce qu'il raconte. C'est difficile d'avoir un discours rationnel sur ce qu'il dit. Et sur Wall Street, moi, j'ai été très étonnée d'un fait, c'est que j'ai regardé l'évolution du cours de bourse, en fait, de la SPAC de Trump Group. Et là aussi, on est dans l'irrationnel total, puisque ce cours a progressé de 270% depuis la mi-septembre.
Ouais, bah.
Donc, il y a une espèce de bulle, en fait, sur ce titre. Alors que à l'intérieur de cette coquille, il y a son réseau social où on ne sait pas tellement combien il y a d'abonnés réellement, mais ça perd de l'argent tout ce que ça peut. Donc en fait,
c'est terrible.
Il y a une espèce de truc irrationnel dans cette élection.
Bruno Coquet, comment est-ce que vous voyez cette fin de campagne? Vous, il reste une semaine avant le vote des Américains.
Stratégiquement, il a eu tort de ne pas reconnaître le réchauffement climatique. Parce qu'il aurait pu accuser Kamala Harris d'en être responsable.
Il l'a déjà accusé de l'inflation monstre, qui a été la même pour l'ensemble de la planète, grosso modo.
Ma perception, c'est que je pense qu'on est assez loin de tout ça, fondamentalement, et de la rationalité de l'électeur américain. On raisonne en européen. Les Européens votent démocrate. Depuis toujours, à 80%, donc ils comprennent pas le républicain, même quand il est raisonnable.
Voilà.
A fortiori, quand il est déraisonnable, je crois que ça peut pas se
faire. On est dans le monde de la post-rationalité, donc c'est compliqué pour...
Tout ça nous dépasse. Benjamin Gian, le communicant, comment est-ce que le communicant regarde cette fin de campagne là? Camaralis qui va parler ce soir, grand oral devant la Maison Blanche.
Je vous rejoins totalement, c'est effectivement très dur pour nous Français, nous Européens, de comprendre les États-Unis. Effectivement, on regarde toujours ça avec notre culture politique nationale. Et on pense pouvoir décrypter et comprendre. Alors qu'en réalité, cet objet politique américain est difficilement compréhensible. Et notamment, il y a des études qui sont assez intéressantes sur la manière dont Trump s'exprime. Et en fait, plus il est dans l'outrance, plus ce qu'il dit n'a ni queue ni tête, plus il arrive à convaincre. C'est-à-dire que ces outrances, maintenant, sont devenues presque un petit langage commun, et on l'accepte, ça fait partie un peu du folklore, de la culture politique. Et on a attribué à Trump le fait d'une forme de parler vrai, de parler un peu fou, mais finalement qui plaît, et qui convainc de plus en plus, dans plus en plus, ses électeurs. Et il y a seulement, effectivement, quelques Américains éclairés. Je prends l'exemple de Robert Paxton, qui est pas le dernier des Américains pour lire l'histoire, et qui, il y a 10 ans, ans, lors de la première élection de Trump, on lui disait, mais nous, Européens, on allait le voir en disant, mais Trump est fasciste. Il nous disait, mais pas du tout, arrêtez de calquer des logiques françaises. Et aujourd'hui, il nous dit, bah pardon, je me suis trompé.
Mais oui.
Voilà, il y a quelque chose dans l'approche du pouvoir qui est terriblement fasciste.
Benjamin Rastignac, ce qui nous interpelle aussi, c'est la stratégie de campagne de Kamala Harris. Il y a eu la convention démocrate fin août, ça s'est envolé, les sondages étaient très bons, puis d'un seul coup, on a l'impression qu'elle a pas embrayé. Ben, comment est-ce que vous analysez sa stratégie depuis maintenant quelques semaines, finalement?
Trop rationnel, en fait. Trop rationnel. Face à un individu qui a fait de la politique irrationnelle, il aurait fallu chercher des marqueurs qui soient irrationnels.
On a loué le talent des stratèges démocrates pendant cette convention démocrate. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est ça que je comprends pas.
C'est ça qui est terrible. C'est qu'on a face
à... Mais vous avez l'explication, vous?
Je n'ai pas d'explication. Simplement que nous, si on colle nos grilles d'analyse rationnelles en disant, bah voilà, elle a mis des éléments rationnels sur le plateau, ça va marcher? Non. En fait, l'élection ne se jouera pas là-dessus. L'élection, elle se jouera dans un énorme champ irrationnel. Mais ce qui est à l'image de nos grandes démocraties, hein, la France n'est pas forcément mieux lotie. Hein.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'on croit toujours que la démocratie est rationnelle, et finalement, on l'a vu qu'il y a une volonté dans toutes les grandes démocraties, une forme de plongeon, de saut en avant. On s'est dit, on a essayé le rationnel. Tentons l'irrationnel.
Non, dans cette part d'irrationnel, c'est cette part d'irrationnel qui vous fait dire que rien n'est joué. Là où la petite musique monte, selon lesquelles Trump a 3-4 points d'avance au niveau national.
Moi, je
vous dis, est-ce que
2016,
vous dites, voilà, 2016, c'est ce que, voilà ce que j'allais
on
dire.
On allait se coucher, c'était plié, on s'est réveillé, Trump était là.
Est-ce que 2016 doit nous amener à l'humilité, nous rappeler à l'humilité, l'humilité la plus totale une fois de plus dans cette histoire?
Depuis l'Europe, quand on analyse les États-Unis, je pense une humilité totale.
Bon, en souvenir de 2016, effectivement, comme le dit Benjamin, on est tous allés se coucher en pensant que. Et on s'est réveillé avec de
avec autre chose.
Effectivement, voilà. Allez, c'est l'heure de l'extra time pour finir cette émission, comme tous les soirs. Bah, c'est vos coups de cœur ou coups de gueule du soir sur une trentaine de secondes. C'est complètement libre. Comme à chaque fois. Bruno, est-ce que vous voulez commencer?
Oui,
30 secondes.
Bien.
Allez, 30 secondes, c'est parti.
Moi,
Bruno.
Je suis admiratif de la réussite de Xavier Niel et de Free, mais quand même, sur ces histoires de vol de données,
oui.
Je pense que quand même, il y a un sujet. Hein. Là, on a eu France Travail, Boulanger, maintenant on a Free.
Oui.
Et mon sentiment, c'est que quand même, on devrait penser à tarifer quand même le vol de données, c'est-à-dire à indemniser les gens. Si vous confiez votre... Et oui.
Vous avez toutes les PME qui
ça n'aura pas de valeur. Tant que ça n'aura pas de valeur de le protéger, il n'y a pas de raison de le protéger bien. Et donc, du coup, moi, je pense que dans l'asymétrie des contrats, surtout que c'est des services payants, il ne s'agit pas de Google où on concède un truc contre un service gratuit. Contre un service payant, je pense qu'il serait raisonnable de penser à tarifer les pertes de données confiées, puisque c'est comme ça, aux,
message passé
aux marchands sur Internet.
À toutes les petites PME aussi qui traînent un peu des pieds pour s'équiper et se protéger, ces investissements, et c'est beaucoup de choses. Béatrice, 30 secondes, c'est à vous.
Alors, un coup de gueule surtout de les faussetés qu'on entend sur le Mercosur où en France, que ce soit les syndicats d'agriculteurs, quel que soit leur bord d'ailleurs, de la FNSEA aux jeunes agriculteurs en passant par la Confédération Paysanne, mais aussi le gouvernement et l'Élysée qui sont vent debout contre le Mercosur, ou laissant planer la menace où on va être envahi de bœuf brésilien, argent de sucre, etc. Et quand on regarde vraiment le détail de cet accord, et notamment ce qui se passe sur le volet agricole, où on a des quotas tarifaires, je donnais juste un exemple en fait sur le bœuf, le quota tarifaire donc de bœuf qui arriverait donc à droit zéro, c'est 1,5% de la consommation annuelle de bœuf de l'UE. Donc bon, je veux bien croire qu'il y a sans doute des problèmes, voilà, c'est pas l'invasion de bœuf argentin ou brésilien.
Et puis il y a un sujet sur les minerais sensibles qu'on peut faire venir aussi dans le cadre de la transition énergétique.
Et puis il n'y a pas que l'agriculture dans ce
volet. Et puis il n'y a pas que l'agriculture, bien sûr, dans ce volet Mercosur, effectivement. Benjamin, 30 secondes, c'est
alors,
à vous.
Alors il est bientôt 19h, je vais nous ramener à nos assiettes, une considération très terre-à-terre. Dans mon coup de gueule, c'est le mercure qu'on trouve dans les boîtes de thon aujourd'hui. Et alors que c'était une protéine protéine, en fait, une protéine animale peu chère, la boîte de thon. Et on avait tous confiance parce qu'il y avait cette culture de l'apertiser. Vous savez, la boîte de conserve ne vous fera jamais de mal. Et finalement, on se rend compte que bah, tout fout le camp. Puisque même le thon, il y a un problème. Donc ce sera mon coup de gueule de ce soir.
Voilà, car le thon est un prédateur. J'ai appris ça aujourd'hui. Il est situé haut dans la chaîne alimentaire. Donc il gobe tout ce qu'il y a déjà incorporé du thon, c'est-à-dire des poissons plus petits. Voilà, et ainsi de suite. Voilà.
Il y a des métaux rares dans le thon.
Et il y a des métaux rares dans le thon. On parle profession énergétique. Et ben voilà, c'est terminé sur cette note souriante et pleine d'optimisme. Merci à tous les trois d'être venus ce soir, Béatrice Mathieu, Benjamin Gian et Bruno Coquet. Merci, à très vite avec plaisir. L'info revient dans un instant sur BFM Business.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.